Game blogueuse, game blogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction, le podcast 370. Avec moi aujourd'hui, Julo.
Bonjour monsieur.
Julien.
Bonjour.
Et un petit nouveau à la rédaction, un sexy barbu comme on pourrait dire. C'est un peu le hot Ryu de la rédaction maintenant.
Merci.
Je suis désolé mais c'est comme ça. C'est...
Et tu as eu quelques lunettes.
Et tu as eu quelques commentaires à sujet d'ailleurs dans quelques-unes de tes interventions sur Gameblog.
Il s'appelle comment?
Il s'appelle Johnny One. Bienvenue à toi Johnny One qui va se spécialiser pour nous un peu plus dans le jeu de baston et un petit peu aussi dans les RPG japonais, non? Je crois que tu verses un petit peu dans ces arts-là aussi.
Quelques petites bizarreries japonaises aussi au passage, voilà.
Très bien, et écoute, on va immédiatement passer au sommaire de cette émission.
Et
aujourd'hui, nous allons parler non pas de 3 thèmes, non pas de 4 thèmes, mais de 2 thèmes.
mais tu l'as bien vendu,
super déceptif.
On a presque cru que ça allait être bien.
2 thèmes qui vont être très denses. Tout de même, à commencer évidemment par Street Fighter V, c'est pour ça que Johnny est là. Street Fighter V est-il le jeu de baston de la décennie, ou est-ce qu'il n'est pas sorti un petit peu tôt par rapport à ses ambitions finales?
Ou un petit peu tard dans l'année fiscale, mais donc bien assez tôt pour Capcom.
Un beau jeu en kit quand même.
On en parle évidemment tout à l'heure avec Johnny One, avant de nous pencher un peu sur le cas de la Xbox One. Vous l'avez vu avec Quantum Break notamment, qui est annoncé aussi sur PC, même date de sortie que sur Xbox One. D'autres rumeurs commencent à émerger comme quoi à peu près tout le catalogue de la Xbox One, des exclusivités en tout cas Microsoft, arriverait aussi sur PC. On parle de Scalebound, on parle de Halo, de Forza, tout ça pour arriver sur PC. Et du coup on se pose la question, mais à quoi va servir la Xbox One à l'avenir si jamais elle n'a plus d'exclusivité?
En gros, ouais, plus d'exclusivité vraiment totale, quoi.
Bah oui, et du coup, on va se poser la question tout à l'heure. Je rappelle au passage que Julien avait eu l'occasion déjà de répondre en partie à cette question avec un « j'ai quelque chose à vous dire ». Mais avant ça, comme chaque semaine, messieurs, il faut passer par la petite case « win ». Et ouais, qui a winné? Et là, c'est un truc de fou, c'est une annonce qui a eu lieu pendant le week-end. Une annonce d'un jeu qu'on a énormément aimé à la rédac, on ne l'a absolument pas taillé.
C'est un jeu indé.
Non, c'est pas un jeu indé.
Ah si, quand même, un jeu indé 5 sur 5.
Mais non, je parle pas de ça.
Bah bien sûr que si.
Bah on parle de Knack. On parle de la suite de Knack.
D'accord, ok. Non, alors en fait je te devançais déjà.
Ah d'accord, bah je voulais faire la blague. Mais non, c'est pas grave, c'était Knack 2 que je voulais dire en développement, mais c'est pas ça du tout, en jeu plaisante. Évidemment, c'est évidemment un jeu indé, un jeu.
Un concept indé.
Non, c'est un nous. Un nous indé qui s'appelle Gameblog. Wow. Qu'est-ce qui se passe avec Gameblog, dis-moi?
Eh bien, comme vous le savez, alors en fonction, si vous êtes premium, Gameblog va bientôt avoir 9 ans, samedi 20 février. Et si vous n'êtes pas premium, c'est Gameblog avec
bon anniversaire
9 ans. Wouh. Eh, c'est pas mal 9 ans quand même.
C'est long et c'est très court à la fois parce que
c'est long, on n'en peut plus les gars.
Non mais je veux dire, c'est 9 ans, ça paraît énorme comme ça. T'imagines l'année prochaine on va fêter les 10 ans, c'est pas une décade, c'est complètement fou. Et en même temps
c'est passé même, hein, parce qu'une décade,
tu te rappelles quand même février 2007, même un peu en amont, parce que le site en vrai, nous on commençait à y rajouter des petites news etc pour que quand les rideaux de fer des internets s'ouvrent, eh bien vous ayez quand même
rideaux de fer, c'est une drôle d'image.
Est-ce que franchement, j'ai l'impression qu'on le dit chaque année, mais c'est vrai, on n'aurait jamais imaginé tenir 9 ans, quoi.
Oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas si on imaginait quoi que ce soit. On était un petit peu la fleur au fusil en se disant faisons ça, ça va être cool, sans trop réfléchir à ce que ça allait véritablement devenir, même si on avait des espoirs quelque part, je pense, au fond.
Vous n'êtes pas lancé sans ambition quand même. Vous êtes
pas sans ambition, mais non. Sans volonté de gérer un résultat dans un temps donné, etc. Enfin, c'était un peu la passion à l'état brut.
La passion.
Non, mais je veux dire, c'était pas le Honduras à la Coupe du Monde. Non, vous n'êtes pas arrivé en vous disant bon, de toute façon, on s'attaque vers tout le monde.
On a vraiment voulu dès le début faire un truc. Qui marche avec du vrai contenu qui devait s'inscrire sur la durée, etc. Mais dans le même temps, je crois qu'on n'avait pas en conscience toute la complexité que ça allait être, parce que nous dans l'absolu on se disait oui, mais c'est faire un site internet, c'est plus simple que faire un magazine papier, parce que bon, il n'y a pas à gérer
côtés, c'est plus
l'impression
simple,
on peut se lancer avec moins d'argent parce qu'on n'en avait pas, hein, tout simplement. Je crois qu'on a mis 1000 euros chacun. Et on était moins d'une dizaine, donc je crois qu'au tout début il y a eu une dizaine de milliers d'euros, quoi, pour faire Gameblog. Super. Mais ouais, la route était longue, elle l'est toujours, mais néanmoins effectivement il y a beaucoup de choses qui avancent, et on avait envie de faire de ces 9 ans un moment en fait qui est pas juste pour Gameblog, la rédaction, mais surtout pour vous. Et une sorte de remerciement. Vous l'avez vu, hein, vraiment, vous en avez parlé. Et là, dans l'absolu, je m'adresse en avant-première au premium, ceux qui vont écouter le podcast avant l'anniversaire. Eh bien, pour vous, en avant-première, je vais vous dire un petit peu les contours de ce qui se profile. En fait, tout ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années...
Oubliez-le.
Non, ne l'oubliez pas. Au contraire, ça nous a permis sciemment d'arriver là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire un site qui peut... Dans une période complexe, hein, vous l'avez vu, hein, y a des sites, des magazines qui ferment leurs portes, que ce soit en France ou à l'international. Le dernier en date, c'est GameTrailers, donc c'est pas n'importe qui. Où on a d'autres sites en France qui licencient, bah nous, on embauche. Alors avec nos moyens, c'est pas des embauches de malades, mais néanmoins, bah, si on est heureux aujourd'hui d'accueillir Johnny Wan sur ce canapé, okay. Même s'il n'y a pas de table à repasser, et il n'est pas le seul. On a Steve, on a Flavien, on a Thomas, on a
Philippe,
on a Rudy, on a Camille. En gros, on a
Olive,
évidemment. Olive vocal. Donc, c'est un nombre important de personnes. Certains qui nous rejoignent en CDI, d'autres qui nous rejoignent à la pige, comme c'est le cas pour Johnny, mais vraiment des gens qu'on paye hein, pour créer... Plus, mais ça à la limite c'est pas très important, mais du meilleur contenu dans des zones qui peut-être étaient, on n'avait pas le temps ou pas les moyens de pouvoir les traiter. La baston n'était pas au top, grâce à Johnny Wan on va pouvoir mieux s'y mettre. L'univers un peu japonais, on n'était pas toujours à la pointe, bah là on a plusieurs personnes qui vont pouvoir nous épauler, dont des personnes qui parlent vraiment japonais. Je pense à Rudy qui va pouvoir comme ça parler directement de jeux typiquement japonais dès qu'ils sortent au Japon.
Directly to you.
donc ça c'est de la qualité. Et puis surtout, on va mettre en place à partir de ce lundi.
Le PC également, puisque voilà, le PC qui était aussi un de nos petits points faibles, qu'on a sacrément renforcé grâce à l'arrivée de Camille.
Exactement. En gros, on vous a depuis plusieurs mois maintenant vraiment sollicité. Ça a donné parfois naissance à des choses concrètes, hein, comme le Warning Day One, qui a été utilisé une seconde fois.
Et qui risque de se transformer aussi un autre en Warning VO, parce que vous êtes assez nombreux à nous dire que les jeux VO, ça serait bien de le signaler genre très vite, très gros sur les tests.
VO exclusives comme Firewatch, hein, où il y a pas de texte en français, il y a pas de sous-titres, etc. Effectivement, pour des jeux qui sortent en France, tout le monde ne parle peut-être pas assez bien anglais.
Surtout quand c'est un jeu narratif, ou la narration a son importance.
Absolument.
Donc vraiment, ces derniers mois, on a pris le temps de vous poser des questions, de vous écouter, que ce soit un peu partout, hein, sur les forums de Gameblog, dans les statuts, que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser, et c'est cool, sur Twitter, à des événements premium à la rédac, sur des salons, dans la rue, parfois, vous venez nous voir.
Tiens, je vais passer un coucou au chef de gare du RERC qui se trouve sur le quai de la gare du Nord. Au moment où il m'interpelle, toujours. Il me dit « Hey, Gameblog, j'adore ce que vous faites voilà, !»
C'est sympa, n'hésitez pas, nous on est
ça
à chaque fois
il y a quelques jours.
Ravis de pouvoir discuter un peu avec vous. On vous l'a demandé en franchise, hein. N'hésitez
toute
franchise. Maître Capello.
Non, mais il faut que je te reprenne sur celle-là.
Tu as raison. De nous dire ce qui va bien, bon, c'est cool, mais aussi ce qui va moins bien ou les choses qu'on peut améliorer. Tout ça, on a essayé de vraiment le réfléchir, de faire notre autocritique, de voir les carences que nous pouvions avoir et d'essayer de l'adresser et de vous fournir quelque chose de beaucoup plus complet que par le passé, ce qu'on pouvait vous produire. Donc tout ce qui existe aujourd'hui sur Gameblog, les news, les previews, les tests, les reportages, les interviews, la réactivité que la rédaction a pu montrer, eh ben, tout ça, on ne va pas le changer. Parce que c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être, bah, j'ai envie de dire, en vrai, le seul site de jeux vidéo en France qui a une croissance positive, alors que la plupart de nos confrères plutôt sont en baisse. Donc on ne va pas changer ça, puisque ça marche. En revanche, on vous a aussi écouté. Vous avez envie de plus de papier de fond, comme certains l'appellent, d'analyse sur des sujets d'actualité, mais pas que. Vous avez envie de nouvelles émissions. Vous aviez envie, vous étiez souvent nombreux à en parler, de rétro gaming. C'est quelque chose qui vous passionne. De Japon, du PC, de la baston. Deux choses aussi un petit peu décalées, parce que vous êtes très nombreux aussi à dire que vous aimez la particularité du temps de Gameblog et qui est un peu différente aussi, c'est vrai, parfois un petit peu délirante, parfois un peu je sais pas, guirette.
Je sais pas pourquoi ça me donne envie de tuer Julo, je sais pas pourquoi.
Bah voilà, les petits courts-métrages de Plume par exemple. Donc ça, on va le garder avec des chroniques par exemple, dont une qui s'appelle The Troll qui passe à la moulinette.
Mais tu balances tout comme info là tout de suite.
Attends, on est en avant-première pour nos premiums.
Oh, okay,
et ils nous aident très concrètement, donc on leur doit bien ça.
Okay,
qui passe à la moulinette l'actualité avec un regard de troll, mais aussi donc. Une nouvelle émission rétro gaming en live, dont Julo peut
oui, alors
définir les contours.
Super rétro prime turbo qui sera en fait un live hebdomadaire tous les jeudis soirs dans lequel on va à chaque fois vous présenter un peut-être parfois plusieurs jeux si on veut faire une spéciale quelque chose. Bref, vous allez voir à peu près toute la rédac. Moi, j'ai demandé comme ça aux rédacteurs de me dire quels étaient les jeux qu'ils voulaient présenter, ceux qui nous tiennent à cœur, ceux sur lesquels on a vraiment plein de trucs à dire et à vous montrer. Bah voilà, on reviendra dessus dans une émission en live.
T'as déjà un premier jeu.
Ouais, je vais commencer avec un de mes jeux qui est dans mon petit cœur, c'est Gambale Goemon sur Super Nintendo.
D'accord. Donc, Mystical Ninja, il s'appelle.
Mystical Ninja en Europe, effectivement.
Ça, ce sera le jeudi soir parce que vous allez comprendre, mais ça, on vous lèvera le voile au bon moment. Il va y avoir vraiment une grille de programme tous les jours. Vous allez avoir au minimum deux rendez-vous hebdomadaires récurrents, fixes, le matin, le soir ou l'après-midi, en plus de tout ce qui fait l'actualité. Il y a un autre sujet qui, lui, par contre, sera mensuel. C'est toi, Plume, qui
absolument,
le dirige.
Ouais.
Ça s'appelle
À la French. Alors, en fait, à la French, c'est très simple. On a décidé qu'une fois par mois, on essaierait, je pense qu'on va y arriver, d'aller dans un studio français, exclusivement français, pour eh ben, découvrir les locaux, déjà pour commencer, et puis découvrir la façon dont les gens travaillent sur leurs projets en cours. Le premier, je peux le dire, hein, c'est le studio Enigami qui se situe à Tourcoing, dans la banlieue de Lille. Ils sont à l'œuvre sur Shyness, qui va être édité par Focus Interactive d'ici pas très longtemps, parce qu'on n'a toujours pas de date fixe au moment où on enregistre ce podcast. En tout cas, on a pu aller les voir, on a pu faire le tour du studio, vraiment savoir qui faisait quoi. On a pu même filmer les écrans, un truc qui ne se fait jamais dans aucun studio. On a pu filmer les écrans des personnes qui bossent. Et puis, on a pu s'entretenir un petit peu avec les deux cofondateurs du studio pour avoir un petit peu l'histoire du jeu qui remonte à il y a plus de 20 ans. Et c'était absolument passionnant. Et j'ai appris des choses absolument extraordinaires, que ce soit sur le jeu ou même sur un autre personnage qui est intégré dans le jeu, que je connaissais pas forcément et pourtant que j'ai croisé une paire de fois. Mais
non,
ça, ce sera un autre sujet.
Pas, malheureux.
Ce sera un autre sujet dont on parlera plus tard.
Bah justement, tous les lundis matins, pour commencer votre semaine, vous allez avoir une tribune. Une tribune, un point de vue sur le jeu vidéo, sur un thème fort. Et pour ça, en fait, on a constitué une team de plusieurs rédacteurs qui va tourner comme ça chaque semaine.
On peut les appeler les tribuns d'ailleurs.
Ou les tribunaux.
les tribunaux.
Bon, en gros, il y aura Philippe, il y aura Thomas, il y aura aussi Rudy, Flavien. Et puis, évidemment, la rédaction va aussi, en l'occurrence, il y a un sujet de Plume là. Il y a Romain aussi qui est en train de préparer un sujet. Donc, des tribunes, assez, des dossiers, hein, vraiment, vous verrez. Assez consistants, vraiment. Là, vous allez en avoir pour des dizaines de minutes de lecture, croyez-moi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Mais avant tout, au-delà de la quantité, c'est vraiment intéressant, croyez-moi. Les 4-5 premiers sont déjà prêts. Et je crois que ça risque de bien vous intéresser. Bon, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a une émission aussi dédiée aux indies, au Greenlight, aux petits jeux indépendants qu'on peut découvrir sur Steam. Pareil, ce sera aussi le lundi piloté par Camille. On a une émission aussi qui va revenir sur un peu les souvenirs qu'on peut avoir de jeux vidéo. Alors, c'est pas vraiment forcément que du rétro, mais c'est des grands souvenirs. Des
souvenirs précis, en tout cas. Hein.
Exactement. Quand, la première fois qu'il a découvert, par exemple, Halo 2, Halo 3, vous connaissez.
Enfin, Halo 2, Halo 3.
Halo, le premier Halo, excuse-moi. Quand personne ne savait ce que c'était, comment ça s'est passé. Et donc, toute la rédaction et des invités extérieurs vont pouvoir passer comme ça et vous raconter un petit peu leurs souvenirs. En gros, il y a énormément de choses qui arrivent. Il y aura des émissions, une émission aussi d'anecdotes qui s'appelle Trivia. Beaucoup de nouveaux contenus. Il y aura une émission de Libre Antenne avec vous. Vous, les membres premium, tout le monde pourra évidemment l'écouter et la voir, mais les membres premium, vous directement, ce sera l'un de vos avantages. Vous pourrez directement participer en vidéo, par Skype, en direct, et ainsi bah, être vraiment. C'est plus qu'un courrier des lecteurs, quoi. C'est là où vous allez vraiment être dans l'émission. Et il y a d'autres projets sur lesquels, pour l'instant, on restera bouche cousue, mais ça ne tardera pas.
D'accord.
Dans
bah,
les 2-3 semaines à venir, il y a d'autres étages à la fusée qui arrivent, mais tout ça, c'est pour vous remercier.
Bah, c'est cool en tout cas parce que le podcast touche à sa fin.
Ah, voilà. Merci.
On a tout donné. Merci. Hein. Ciao. Non, évidemment, mais il y a une autre petite nouvelle dont tu peux nous faire part aussi concernant Gameblog. Ça concerne Twitter.
Tu es papa.
Non. Non. J'aimerais bien.
Oh merde.
Chérie,
Écoute.
Voilà, donc sur Twitter, il y a un petit truc sympa qui s'est passé sur Twitter.
Bah oui, merci aussi à tous, beaucoup de merci, mais c'est vrai, ça vient du cœur. Le compte Twitter qui a fêté la semaine dernière, ou cette semaine si vous êtes premium, a dépassé le cap fatidique des 200 000 abonnés quand même. Mmh. C'est pas mal. Ce qui fait que quand même, si on cumule un petit peu les différents abonnés des membres de la rédaction, on atteint au bas mot les 500 000 followers sur les différents comptes de la rédaction. Donc bah, merci beaucoup à tous.
Ça
n'hésitez
commence
pas
à peser, hein, tout ça.
Nageur parti chez Johnny One quand même.
Okay. Évidemment.
Qui pèse lourd.
Ouh, hallucinant. Voilà, donc c'est cool. Et sur Facebook, vous êtes près de 100 000. Donc merci tout ça, et ça nous invite et nous pousse et nous motive à vous mettre encore plus de petites coulisses, des petites photos, des petites vidéos, des petits vines, etc.
Viens là que je te mette
sur les
coulisses.
Réseaux sociaux de Gameblog. Voilà. Donc un grand merci pour nous avoir accompagné.
Il paraît qu'il prend les coulisses. Non, non, c'est vrai.
Non, mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là au début. Il y a beaucoup de ces personnes qui sont encore là, mais il y en a d'autres qui sont partis parce qu'ils avaient autre chose à faire.
Ils s'en battent les coulisses.
Ils avaient des cassettes à rendre.
Ils s'en battent les coulisses.
Ils aimaient peut-être moins Gameblog aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui leur ont moins plu, etc. Bah, peut-être que c'est l'occasion de revenir un petit peu, de rejeter un petit regard à ce que Gameblog va proposer dans son ensemble, de dépoussiérer un petit peu certains peut-être malentendus, fantasmes ou peut-être erreurs que nous avons commises ou maladresses qu'on a pu effectuer. Et peut-être regarder Gameblog avec un regard neuf. La vie, c'est comme ça. Hein. C'est l'important, c'est que ça continue, que ça avance avec honnêteté, franchise et indépendance. Vous savez que nous, en tout cas, on est là pour s'amuser, vous informer et surtout pas uniquement là pour nous faire que plaisir. Et comme vous l'aurez noté, j'ai envie de dire, la quasi-intégralité des contenus que nous vous fournissons en plus, vous l'est gratuitement. On n'est pas là pour vous faire payer nos bons contenus. On est là pour essayer de vous en offrir le plus. Je ne garantis pas que ça reste comme ça tout du long. Hein. Le marché d'Internet est complexe.
Toi,
mais
président
en tout cas, non, je ne dirais même pas ça. Mais tant qu'on pourra le faire, tant qu'il y aura encore une réalité économique derrière tout ça, on a vraiment envie de continuer à vous l'offrir gratuitement et de ne pas créer des lecteurs, on va dire, ceux qui peuvent se permettre de payer. Bah, vous avez
et ceux qu'on peut
déchoir. Des bons contenus, puis aussi. Pour les autres, hein, oh, bah, non, bah, vous vous contenterez de la plèbe, là, des trucs minables. En revanche, pour nos premiums, on vous a rajouté, vous allez voir dans chacune des petites émissions et des choses, des avantages, des bonus. Ce podcast est symptomatique. Tout le monde peut l'avoir.
Quasiment une semaine à l'avance.
Mais
pour les
vous l'avez en avance. La libre antenne, tout le monde pourra la consulter, la regarder, l'entendre. Par contre, il n'y a que les membres premium qui pourront participer. Et il y aura d'autres choses comme ça. On préfère valoriser nos premiums que créer un mur qui vous empêcherait d'avoir le meilleur de Gameblog. C'est pas notre philosophie. En tout cas, tant qu'on pourra faire comme ça...
Et on va quand même, se réunir pour savoir si on vous déchoit certains d'entre vous de votre lectoracité. On va se réunir très bientôt pour ces. Bon, bah ça c'était plutôt sympa comme information. Maintenant, il va falloir qu'on passe à quelque chose d'un peu moins rigolo. Et là, Julo,
c'est l'heure du fail.
Ça s'appelle le fail. Et c'est un
bon
petit fail.
Bah oui, le Parisien nous a. Bah c'est le fail, c'est tout simplement celui que tu comptais mettre dans le win. C'est l'arrivée de NAC 2, non, bientôt.
Non,
c'est pas ça. Le mec, il est partout.
C'est Gaze. C'est Gaze.
NAC 2, c'est Gaze.
C'est Gaze.
Non, alors on va parler de Fleur Pellerin. Figurez-vous, notre ancienne ministre de la Culture, désormais déchue de son titre, est remplacée il y a peu par Audrey Azoulay, ancienne conseillère de la culture de François Hollande. Mais pourquoi est-ce qu'on met ça dans le FEL aujourd'hui?
Ah, c'est pas pour elle, en tout cas, parce que
alors c'est pas qu'on se politise, c'est pas non plus qu'on l'aimait pas, notre Fleur Pellerin, parce qu'elle a fait pas mal de choses pour le jeu vidéo. Mais justement, on a découvert par l'intermédiaire d'un game blogger et
du Parisien,
et du Parisien puisqu'il était linké sur cet article, dans un article du Parisien du 11 février qui s'appelle Fleur Pellerin, le rendez-vous manqué avec le monde de la culture, où il est dressé tout son parcours. Hein. Faut rappeler que c'est quelqu'un d'assez brillant, de très travailleur. Elle a fait des bourdes. Avant ça, elle est quand même diplômée de Sciences Po, de l'ENA, de l'ESSEC. Elle rentre au gouvernement, elle travaille beaucoup et elle fait des bourdes un peu à la télé. On se rappelle notamment de l'affaire Patrick Modiano. Voilà.
Alors, l'affaire.
Parce que ça avait fait beaucoup de bruit.
Décapitez-la !
Voilà, c'est ça. Elle avait été ministre de la Culture et donc incapable de citer un seul de ses bouquins à notre prix Nobel. Ce qui lui avait valu vraiment une horde de commentaires négatif.
Alors attendez, au passage, est-ce que l'un d'entre nous peut citer un bouquin de Modiano?
Vraiment une émission politique en fait.
Est-ce que l'un d'entre nous peut citer un livre de Modiano? Moi je ne peux pas. Je vous le dis tout de suite, je ne connais aucun livre de Modiano. Et vous?
Mais à la fois, t'es pas ministre de la Culture.
Non.
Je veux dire, c'est comme si on disait, t'es incapable de citer un jeu, je sais pas, Microsoft. Si c'est Fleur Pellerin, c'est pas très grave. Si c'est si t'es rédacteur,
t'es incapable
en chef
de citer le Gameblog Award de l'année dernière.
Voilà.
Merde, vous me prenez un petit peu.
Elle avait fait rire pas mal de gens aussi dans le petit journal. Je sais pas si vous vous souvenez, où elle a été incapable de dire ce qu'il y avait dans son bureau, qui était le peintre de la peinture qui était là, comment utiliser la télé, le lecteur DVD. Enfin bref. Bon, N'empêche qu'elle a fait, comme je disais tout à l'heure, pas mal de choses pour le jeu vidéo. On se souvient qu'elle a décoré David Cage, qu'elle a visité pas mal de studios, qu'elle a agi pour le fameux crédit d'impôt, à tel point que le CEL, hein, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo, l'a remercié quand elle est partie.
Mais alors c'est quoi le fail ?
Et alors le fail c'est quoi ? C'est qu'on apprend justement dans cet article du Parisien qu'elle était surnommée par ses collègues et amis entre guillemets la ministre du jeu vidéo
de manière péjorative
évidemment comme un cliché
un peu
la catégoriser celle qui est incapable de citer un livre de Modiano de dire à quoi servent les choses dans son bureau mais bon elle a le jeu vidéo t'inquiète c'est un voilà la sous-culture culture des demeurés etc.
Ça.
Bref,
ils sont tellement has-been, ils se mettent tellement à la marge quand ils disent ça.
Non, mais c'est en fait pourquoi est-ce qu'on met dans le fait ? Parce que ça prouve bien que bon, bah, selon les endroits où on se trouve dans notre société, le jeu vidéo jouit pas encore d'une réputation tout simplement réaliste par rapport à ce qu'il est réellement. Donc c'est un peu triste, surtout quand c'est nos élites. Voilà.
Bah, c'est juste pour eux, c'est juste un truc creux qui rapporte des thunes, quoi.
Voilà. Mais on se souvient quand même que vraiment c'est pas une question de politiser ou quoi, mais le précédent ministre de la culture,
Frédéric Mitterrand,
avait pas mal œuvré aussi pour le jeu vidéo. Je crois que quand t'es en poste et que tu commences à comprendre un peu ce qui se passe sur notre planète, hein, allô, coucou, bah tu te rends compte que le jeu vidéo c'est important pour l'économie, pour la culture, pour le fait que ton pays puisse briller à l'international aussi sur différents sujets autres que voilà, les autres pans de la culture. Donc on peut aimer le jeu vidéo et
ne pas être un débile.
Voilà.
Exactement, un débile. La définition de débile.
Ah bah
Julien,
c'est quelqu'un qui a des déficiences intellectuelles quand même.
Voilà, merci. En tout cas, Fleur Pellerin, Madame Fleur Pellerin, si un jour vous voulez passer, on sait que vous nous écoutez, hein. N'hésitez pas.
Toutes les
semaines. On sera ravis de vous accueillir dans un podcast.
Elle balance sur Twitter ses playlists YouTube musicales, etc. Elle a un peu de goût. Hein,
c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle écoute ?
Des trucs super. Je ne vais pas te les sortir, mais c'est bien.
Mais enfin, c'est quel genre ? Du rock and roll ?
C'est très varié.
Je crois qu'il y a du Woodkid dans le tas.
Oui.
Il me semble.
Oui.
Ouais. Donc elle est à la page.
Complètement.
Et ben nous aussi, on va être à la page avec ce podcast parce que il va falloir passer au premier thème avant de parler de la Xbox One. Nous allons nous pencher sur le jeu de baston de ce début d'année, même de l'année, je pense. Hein, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup d'autres des jeux de baston à part peut-être
Tekken 7.
Tekken 7, mais il y en a un autre qui fait un peu, tu sais, qui fait un peu bizarre quand on le regarde, c'est King of Fighters 14.
Ah ouais, non, celui-là, il fait un peu
bizarre. Il y a un mec qui avait fait un montage d'ailleurs avec. Je sais plus quel perso, je crois que c'est Terry Bogard qu'ils ont mis sur une jaquette de Tekken 2 et en fait c'est tellement mal fait que ça ressemble complètement à ce que c'était à l'époque. Mais bref, nous allons parler de Street Fighter 5. Johnny One, tu as eu l'occasion de réaliser le test de Street Fighter 5 pour nous. Et ben j'ai envie de savoir si c'est un jeu qui mérite clairement tout de suite qu'on l'achète, qu'on se rue dessus.
J'ai envie de te dire oui ou non, ça dépend de
c'est
ça
la question piège.
De pas mal de choses en fait, déjà
d'accord.
Du public dont tu fais partie. Parce que On peut vraiment définir deux catégories de joueurs qui jouent aux jeux de combat. Donc les
pour ton micro.
c'est la première, c'est toujours pareil, c'est l'épreuve du micro.
Donc
non, je le tiens bien,
non, comme ça.
Comme ça.
Okay, voilà.
Donc vous aussi, isolez cette séquence, apprenez à tenir un micro, pas comme ça, comme ça.
Voilà, comme ceci. Donc il y a deux catégories de joueurs en fait, des joueurs qui vont vraiment s'investir dans le jeu.
Comme les chasseurs d'ailleurs.
Ouais. Non, pas vraiment en fait, pour le coup. Donc deux catégories de joueurs, les joueurs qui vont vraiment s'investir dans le jeu à fond, qui vont s'entraîner tous les jours, plusieurs heures.
Mais voilà. Pour la compète uniquement ou pour
pas forcément, même non, je veux dire pas forcément pour aller en compète, même pour leur plaisir personnel. Voilà. Et à côté de ça, t'as une autre catégorie de joueurs, le joueur un peu plus occasionnel, qui lui va quand il va s'acheter son jeu, il va y jouer quoi, 2-3 heures par semaine peut-être. Voilà. Et donc en fait ça dépend dans quelle catégorie de joueurs vous vous trouvez.
Imaginons on a adoré Street Fighter 4.
Ouais.
On a adoré Street Fighter 4 et on se dit c'est le 5, forcément il est mieux.
Ah, ça dépend. Comment tu y as joué à Street Fighter 4? Est-ce que tu étais un joueur occasionnel?
Moi j'étais pas un joueur du tout. Mais après des mecs qui
justement pour ceux qui sont allés sérieusement
pour ceux qui sont allés sérieusement
dans Street 4,
qui sont allés jouer en ligne, qui ont suivi Vanilla, Super Arcade Edition, Ultra, tout ça. Ouais, faut y aller. Voilà. Oui, il faut qu'ils y aillent parce que.
Et pour ceux qui seraient tentés de dire, parce que visuellement on le voit, etc. Ça a l'air d'être un Street 4 plus. C'est vraiment ça ou
non,
ça va,
moi
ça
je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus beau. J'ai vraiment fait le test à la maison, donc j'ai branché les deux consoles sur deux channels différents. Je zappais avec ma télécommande avec les deux persos Donc le même combat en fait, j'ai lancé le même combat dans Street 4 et dans Street 5 justement pour comparer cette espèce d'évolution graphique. Non, il y a un vrai gap. Ouais. Quand on le regarde, les versions PS360, il y a de l'aliasing, c'est très très cartoon. Là, le character design, il est toujours un petit peu cartoon, c'est justement, cartoon, hein. Ouais, mais moins. Moins. Ils ont toujours des grosses mains, des gros pieds, mais ils ont moins les yeux qui sortent de la tête, ce genre de choses. Voilà.
Et au niveau du gameplay, des techniques de combat, ouais, etc., ça s'est étoffé ou au contraire,
ils ont changé tout le système.
Déjà, il y a un truc qui disparaît, c'est la focus, donc qui était un peu une des bases de gameplay du Street 4, qui disparaît, qui fait place au système V. Donc le système V va apprendre plusieurs choses. Tu vas pouvoir avoir un skill, voilà, qui est propre à chaque personnage, qui va te permettre de remplir une jauge. Une fois que cette jauge sera remplie, tu pourras soit lancer un trigger. Donc un trigger, c'est soit un buff de personnage, soit
Alors buff de personnage, c'est-à-dire qu'il devient il tape plus fort, il résiste plus.
Ton personnage tape plus fort, voilà, exactement. Ses coups changent, il a pas accès tout à fait au même coup, voilà. Donc soit un buff de personnage, soit tout simplement un coup unique spécial qui va taper très très fort, voilà.
D'accord.
Et donc il y a ça, il y a une autre mécanique aussi qui était déjà présente dans d'anciens Street Fighter, la série Alpha notamment, c'est le contre. Donc vous pouvez en échange, quand vous avez rempli votre jauge V, placer un contre. Donc voilà, ça change de ce qui se passait dans le Street 4. Après, ce qu'on peut dire.
Heureusement qu'il y a du changement quand même, parce qu'ils n'allaient pas en plus conserver le même système et tout.
Oui, c'est sûr.
Mais ce système, il est mieux que le système.
C'est pas forcément que je pourrais pas te dire qu'il est mieux ou pas. Après, ça dépend de comment tu vas aimer jouer. Déjà, il a une qualité, c'est-à-dire que ça rend chaque personnage unique, plus ou moins unique, ce qui n'était pas le cas dans Street 4. Dans Street 4, il y avait des persos qui se ressemblaient beaucoup.
Ryu et Ken, imaginons, on fait le distinguo entre Ryu et Ken.
Ryu est beaucoup plus défensif que Ken, qui a vraiment des coups pour le vraiment. Par exemple, le V skill de Ryu, c'est il va pouvoir absorber un coup. Voilà.
D'accord.
Et le V skill de Ken, c'est lui, par contre, il fonce en avant, il dash. Si tu restes appuyé sur le bouton, il met même un coup de pied à la fin.
Voilà. D'accord.
Donc t'en as un qui est offensif, l'autre qui est défensif, voilà. Et donc ça permet vraiment de différencier les personnages, et en fait chaque personnage dans ce jeu est vraiment vraiment unique à sa propre
grâce au système V.
Ouais, grâce à ce système V, voilà.
Ce qui n'était pas forcément le cas dans Street Fighter 4. Donc
dans Street 4, t'avais la focus qui était la même pour tout le monde, quoi. Et après c'était un peu inégalitaire, parce que la focus, elle servait bien sur certains persos, et sur d'autres elle était moins efficace, voilà.
D'accord.
Du coup, encore plus qu'avant, quand on sait qu'on va affronter tel personnage, il y a peut-être un bon personnage pour le contre.
Alors, si vous êtes prêts, vous pouvez voir le Hot Ryu, le fameux Hot Ryu.
Il est super classe.
Ouais. C'est un peu un mélange de Joel de Last of Us et de Ryu. Et c'est vrai qu'avec cette barbe, il a un truc en plus.
Alors que Ken, c'est quand même ce qu'ils ont fait est un peu improbable.
Ouais, je sais pas, ils l'ont transformé en shonen. Ouais, Ken, c'est bizarre.
Oh, il a son costume avec le kimono rouge. Hein,
Ryu, esthétiquement, vient de défoncer encore plus.
C'est en DLC.
C'est
en DLC qu'on peut choper le Hot Ryu.
Oui, je l'ai eu, je sais pas. Enfin, je regarde à la maison.
C'est un des bonus de précommande, un truc comme ça, avec le costume de Chun-Li d'ailleurs qu'on peut voir encore.
Quand on regarde ces images, c'est vrai que c'est quand même sensiblement plus beau.
On peut dire des magasins ou pas?
Je crois que. Oui. Ici,
alors le Chun-Li, en robe chinoise, là c'était chez GameStop, je crois, un magasin.
Ouais, voilà. C'est possible, les précommandes GameStop aux
States.
Et
donc le Hot Ryu, moi je sais que. Non, le Hot Ryu c'était chez Micromania.
D'accord, voilà,
c'est
la même. Hein.
Pour Bison.
Ça appartient à GameStop. Ouais. Donc,
mais quand t'es joueur, tu
non,
peux pas acheter.
Pas GameStop, alors une boutique PC, je me rappelle plus le nom.
Ah, je me rappelle pas. Mais c'est pas grave.
Ouais.
Ok, donc ça, on en va en parler après, mais quand même, ça, c'est les prémices quand même du jeu en kit, quoi. C'est-à-dire que même les personnages, tu vas pas pouvoir les avoir tous en fonction du lieu que tu vas acheter.
À mon avis, les costumes, tu pourras tout acheter. Hein. Les costumes de préco.
Mais alors justement, on peut parler un petit peu du contenu de manière générale. Et déjà, commencer par le casting, parce qu'il y avait un truc qui nous a un peu étonné nous quand on avait fait le live ensemble, c'est que Fang n'y était pas dès le
alors,
départ.
Ouais,
qu'est-ce
ça,
qui s'est passé
compris.
À ce moment-là?
En fait, je pense que on a fait la mise à jour 1.1 le jour du live, et en fait, le même jour, il montrait une vidéo de Fang sur le net. Et en fait, je pense
Fang, un nouveau perso avec un chapeau.
Étant donné qu'on était connecté en ligne, ils nous ont mis une version où on n'avait pas accès à ce perso-là pour que justement on puisse pas le montrer. Je pense que c'est ça. Hein.
Après, d'accord.
Il faudrait demander à Capcom pour avoir confirmation.
Ok.
Parce que je suis rentré chez moi le soir pour commencer mon test avec la galette, et le perso était là.
D'accord.
Voilà. Là, donc, pour le coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé.
En termes de nombre de persos, on est à 16 persos 16. En tout. D'autres arriveront bien sûr par la suite. Équilibre des persos plutôt bon. J'ai envie de dire diversité aussi.
Donc ils sont tous super diversifiés. Ce qu'on pourrait dire, c'est un peu tôt pour parler de match-up, d'avoir vraiment des statistiques précises.
comme on peut avoir pour Street 4 là, non?
Ouais. Match-up, donc le fait que certains personnages
soient avantagés par rapport à
plus fort que d'autres.
Voilà. Tu prends un exemple, tu vas prendre, je sais pas moi, je vais prendre un truc au pif, hein. Zangief va gagner 3 matchs sur 10 contre Sagat, et c'est une statistique, quels que soient les joueurs. Voilà. Donc ça, on appelle ça le match-up. Zangief a peu de chances de gagner contre Sagat. Voilà. Donc le match-up, c'est un peu tôt pour en parler. Moi, ce que je remarque de mon observation du jeu, c'est que les 16 persos, ils ont vraiment l'air tous forts. J'en ai pas vu un qui avait l'air vraiment plus faible que les autres. Mm-hmm. Ils ont tous leur chance. Voilà.
Doublé du fait de ce que tu disais avant, qu'en plus ils ont tous une façon différente de jouer.
Ils ont tous une façon unique. Voilà.
Tu vois Dalsim, qui est un des nouveaux persos.
Ouais, c'est génial,
on le retrouve avec plaisir parce que lui, il est totalement différent.
Ah, il a complètement changé.
Mais ils l'ont super classe aussi.
Ouais,
ils l'ont barbifié aussi d'ailleurs. C'est incroyable, toutes ces barbes.
Super barbe.
C'est le syndrome Big Boss.
Bah peut-être.
Ou le Snake.
Mais est-ce qu'on n'en viendrait pas donc au fameux jeu en kit là? Parce
ouais.
que la véritable.
Parce que les modes de jeu.
Parce que donc le jeu, on a compris.
Le point de rupture
bien,
là, avec certains joueurs, il est là.
Très bien, c'est nouveau.
Un truc
c'est
qu'on n'a pas vraiment abordé sur le gameplay, le jeu est plus accessible. Beaucoup plus accessible. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui disparaît, c'était les combos qu'on appelait Just Frame, où il fallait taper ton input au millième de seconde près. Ça, les fenêtres dans lesquelles vous pouvez enchaîner vos combos sont plus large, donc
c'est plus permissif
pour quelqu'un qui commence. En fait, les joueurs pas forcément débutants ou même
c'est une réalité ou tu dis ça parce que je t'ai pris un round pendant le live?
Je suis allé en training, il y a pas encore le défi combo, donc du coup tes combos tu les cherches un peu toi-même ou tu regardes des vidéos des gens de gars qui ont déjà fait des trucs sur la bêta, voilà, donc t'essayes de reproduire un peu la chose. Oui tu y arrives beaucoup plus facilement qu'avant.
Mais est-ce que ça c'est pas un défaut pour les pro gamers? Est-ce qu'ils vont pas dire ah bah c'est devenu
un jeu de noob? Eux ils vont râler.
Non mais je veux dire, il y a quand même une marge de progression énorme pour ceux qui veulent s'investir.
Ah, c'est-à-dire que le combo, même s'il est un peu plus facile à sortir, tu vas pas quand même le sortir du premier coup non plus. Voilà, ça reste quelque chose qui se travaille. Il faut bien connaître les mécaniques de jeu. On n'est pas rentré dedans du tout là. Dans notre discussion aujourd'hui. Voilà, non, il y a vraiment une bonne profondeur de jeu à connaître. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont fait ça tout simplement pour fidéliser un peu leur public, pour amener plus de monde.
Mettre
une position de réussite le joueur. Voilà. Tu mets dans une position de réussite le joueur, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de continuer, tout simplement. Voilà, et de s'investir dedans.
Alors s'investir.
S'il était frustré, etc.
Ouais, alors que s'il était frustré, un joueur.
S'investir,
frustré,
c'est bien, mais est-ce qu'il y a assez de contenu justement pour s'investir alors, quand on est tout seul chez soi, par exemple?
Tout seul chez soi, c'est un peu compliqué, malheureusement.
Qu'est-ce qui se passe, Johnny?
Le jeu démarre sur un tuto de 3 minutes. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on passe pas par le menu principal. Non, on nous impose le tutoriel.
Comme dans les jeux de foot.
Aujourd'hui,
tu lances un FIFA, tu vas pas du tout dans le menu, tu commences par un match.
Ça c'est souvent pour tricher parce qu'ils sont en train d'installer le jeu.
C'est ça, mais même s'il est déjà installé,
ça dure vraiment 30 secondes. Le tuto dure en 2 minutes, vous l'avez bouclé, vous apprennent à sauter, à parer un coup, voilà. Suivez le V-skill vite fait. Et donc après, qu'est-ce qu'on cherche à faire en premier quand on va dans un jeu de baston? Toi, un mode story,
mode arcade.
Moi, c'est
mode
mode arcade. Donc vous cherchez
tu
le mode
dis,
arcade.
Je vais prendre mon perso préféré,
ouais,
et
voilà,
je vais latter
aller,
tous les autres pour
exactement.
Voir
la fin. Là, il y a pas de mode arcade. Voilà. Donc on se dit, vu qu'il y a pas de mode arcade, où est-ce qu'on va aller?
Mode story.
En mode story.
Pour moi, mode arcade et mode story, c'est la même chose, hein. Mais
pas là.
Pas là.
Pour moi, c'est t'as la petite histoire du perso. Tous les deux matchs, t'as un mec, c'est son
story. Ils ont séparé arcade et story.
Non, là,
ils ont supprimé arcade.
Il y a pas d'arcade. Donc là, on va aller en mode story. Et en mode story, en fait, on va voir qu'il y a 2-3 combats par personnage.
C'est un scandale, non?
C'est une blague.
C'est un scandale!
C'est une blague.
Et donc, après, voyons ça.
Je l'en quitte!
On se rabat sur le mode versus.
IA.
On se dit, pas grave, j'ai joué contre l'ordinateur pour m'entraîner.
En versus, voilà.
Mais
comme
tu peux pas jouer contre l'ordinateur.
Il n'y a pas.
Il n'y a que l'entraînement où tu programmes en fait un bot.
Au départ, le live qu'on a fait, on voulait le faire moi tout seul en fait. Moi tout seul qui joue contre l'IA. Et
c'est
en fait, ce n'est pas possible. Parce qu'on avait donc.
C'est
une,
du jamais vu, ça,
dans un jeu. Comment on appelle ça? Un NDA, non? Un NDA qui nous empêchait de montrer autre chose que le mode versus. Et le mode versus, si on voulait vous le montrer, c'était à deux joueurs parce qu'il n'y a pas de versus contre l'IA. Et donc le seul autre vrai mode solo qui existe, c'est le mode survival. Donc le mode survival, vous affrontez des ennemis en round,
des vagues, quoi.
Voilà, vous gardez votre barre de vie à la fin, vous pouvez en échange des points que vous gagnez dans le jeu regagner de la vie ou du bonus, taper plus fort, avoir plus de défense.
Et
au contraire,
le jeu, c'est donc de tenir le plus
le plus longtemps. Non, c'est limité, c'est 10, 30, 50 et 100 selon la difficulté. Voilà, Et un training. Training, par contre, qui est super bien foutu parce que.
Tu peux tout paramétrer.
Ouais, on peut tout paramétrer. Mmh. Et ils ont fait un truc qui est pas mal avec le pavé tactile de du DualShock. D'ailleurs, il y a un Fight Pad Mad Cats qui sort avec pavé tactile intégré. Wow. Donc, vous pouvez, en fait, d'une simple pression sur le pavé tactile, et
resetter la position
de l'adversaire. La position, c'est-à-dire, en gros, tu mets ton adversaire, je veux qu'il soit à tel endroit pour travailler tel combo à tel moment. Voilà. Tu loupes ton truc, ou même ne serait-ce que tu veux le travailler à la chaîne, et juste en appuyant sur le pavé tactile, ça recommence.
Oui, parce que je crois qu'on l'a pas dit, mais pour ceux qui l'ignoreraient encore, c'est une exclusivité console PS4. Ouais. Mm-hmm. Bon, il sort aussi sur PC. Hein.
Exactement, sorti le 16 février.
Console, c'est que PS4.
Ouais.
Bah, attends que la Xbox One puisse jouer tous les jeux Steam, et puis c'est réglé.
C'est ça.
On verra ça dans quelques mois, ça va être très intéressant, mais là c'est le
sujet
prochain thème.
Sujet numéro 2.
Ouais. Donc ça pour dire qu'en fait il manque plein de choses.
Ouais, il manque plein de choses. Donc vous avez juste le constat, c'est que. À l'heure actuelle, là, si vous achetez la galette aujourd'hui, vous voulez jouer en solo, vous ne pouvez pas faire un versus classique avec disclaimer au départ, one fight, décomptage de round, etc. Il y a pas.
Mais ça s'est déjà produit dans un jeu de baston ?
Non, je crois pas.
Non, c'est une première. En même temps, faisons un peu l'avocat du diable. Un jeu de baston moderne. Tu joues pas tout seul, tu joues soit avec tes potes quand ils viennent, à ce moment-là tu joues en versus, soit tu joues en ligne. Et parce que c'est ça le jeu de baston aujourd'hui, et tu vas nous parler du mode en ligne après. En plus, celui de Street 5 est super réussi.
Ouais.
Il a eu du mal à se lancer quand même. Hein.
Ouais, d'ailleurs,
les serveurs ont un peu merdé.
Encore aujourd'hui, j'ai écrit le test, moi ça s'était bien passé cette semaine au niveau du mode en ligne.
Pas encore des millions.
Là, j'y ai rejoué hier et ça s'est un peu moins bien passé que pendant ma période de test.
C'est comme ça. C'est une
mise à jour.
Donc. J'ai envie de te dire oui, certes c'est vrai le truc, enfin, en fait ils se sont mis, est-ce que vous avez vu la pub qui est à la télé pour Street
non.
4
spécial tournoi 5. C'est ça,
moi je l'ai vu
c'est
à la mi-temps
c'est
du
qui
match
se concentre un peu plus
ouais,
sur le programming.
C'est une pub où on voit en fait des joueurs en tournoi. En fait l'objectif de Capcom c'était vraiment fédérer une communauté, toute une communauté, comme un vrai sport, comme le foot, voilà. Moi je te dis, j'ai vu la pub à la mi-temps du match de foot hier.
Moi j'étais au parc, j'ai pas vu la pub.
Ouais. Bah, t'as bien de la chance. Donc c'était, en gros, on va avoir les top players qu'on va pouvoir suivre, qui vont être un peu les stars, voilà. Et à côté de ça, fédérer tout autour de ces top players une communauté de joueurs plus occasionnels qui eux vont jouer en dilettante. Tout à l'heure je vous donne un exemple, le joueur qui va y jouer 2-3 heures par jour, le joueur qui va y jouer 2-3 heures par semaine. Voilà. Donc fédérer autour de toute cette communauté de top players, et des joueurs un peu plus régulier et des joueurs plus occasionnels. Là, en fait, il manque un peu le coche parce que moi, après, c'est mon analyse personnelle, mais je pense que le gros des joueurs de Street, c'est quoi ? C'est pas des joueurs réguliers, c'est plutôt les joueurs occasionnels qui vont l'acheter dans une grande majorité. Tout le monde.
Ceux qui vont pas au parc et qui disent à la mi-temps, tiens, on se fait des matchs, quoi. Tout bêtement.
Exactement. Donc, en fait. Là, je pense qu'il y a un peu un échec de leur politique à ce niveau-là.
Mais est-ce que c'est vraiment un échec ? Parce que
que le joueur occasionnel, lui, qui va vouloir faire son mode arcade.
Mais par rapport à l'e-sport,
faire son mode story.
Je pense qu'ils veulent transformer aussi pas mal de joueurs occasionnels en joueurs qui vont s'investir encore plus. Parce qu'il y a quand même dans ce mode en ligne un truc génial. C'est donc, comme tu disais, Johnny, on peut suivre tel top player.
J'adore Johnny.
Hey, Johnny !
Johnny !
Il faut qu'il parle comme ça maintenant.
Bien sûr !
Tu peux suivre un mec. Et à ce moment-là, télécharger ces replays de tous ces combats. Tu les télécharges. Ensuite, tu peux, comme si c'était un magnétoscope, suivre le combat frame par frame pour voir comment il a fait
au passé.
En affichant les inputs, donc la façon dont il sort ses combos.
Exactement, ça
te permet de travailler. L'analyser et faire « Waouh, j'aimerais bien faire ça aussi. » Et du coup, t'entraîner. Alors qu'avant, t'étais totalement isolé chez toi comme un con.
Bon,
t'essayais d'inventer ou de trouver des trucs ou d'essayer de reproduire des choses que t'avais vues. Mais là, tu peux vraiment analyser, suivre, progresser avec une matière vraiment géniale.
Depuis tout à l'heure, c'est vrai que je n'aborde que les points négatifs parce que moi, je me mets dans cette optique-là. Moi, c'est vrai que dans ma jeunesse, c'était quand j'allumais ma console Street, c'était mode arcade et j'avais une demi-heure, une heure de mode arcade tous les jours sur ma Super Nintendo. Et là, ce truc-là, il a disparu. Bon, donc c'est un peu un pincement au cœur, c'est vrai. Ce que tu dis est pas faux non plus, c'est-à-dire que quand on a un jeu de baston, l'objectif principal c'est d'aller en ligne pour tester son skill, tout simplement, aller affronter les joueurs du monde entier. Et là,
s'entraîner dans l'entraînement.
Voilà. Et là,
sur ce point-là, le jeu, il est vraiment génial. Alors, j'ai vu, donc nous, on a mis la note de 4 sur Gameblog pour le jeu. Il y a pas mal de personnes qui se sont interrogées, qui disent justement, mais attends, vous donnez plein de points négatifs, on n'a pas encore parlé du jeu en kit, on en dira peut-être un mot derrière.
Pas très vite,
le fait qu'il n'y ait pas de mode solo, mais à côté de ça, 4, ça veut dire que c'est un très bon jeu. Et oui, parce que c'est un très bon jeu au niveau de ses mécaniques de gameplay et au niveau de ce qu'il propose pour le online. Avec le Capcom Fighters Network qui permet de suivre, regarder les replays, les classements, etc. Et puis un mode en ligne qui est super bien fichu.
Mais surtout que maintenant, on peut dire, parce qu'on va parler un peu du jeu en kit, effectivement, qu'il sort peut-être un peu tôt par rapport à ce qu'il pourrait proposer au final. Mais en même temps, le timing est juste ce qu'il faut pour que les joueurs pro puissent commencer à se plonger dans
15 jours. Là.
Exactement, puissent se plonger dedans pour que. C'est avant l'Evo, c'est ça
C'est un très bon jeu au niveau de ses mécaniques de gameplay et au niveau de ce qu'il propose pour le online. Avec le Capcom Fighters Network qui permet de suivre, regarder les replays, les classements, etc. Et puis un mode en ligne de ses mécaniques de gameplay et au niveau de ce qu'il propose pour le online. Avec le Capcom Fighters Network qui permet de suivre, regarder les replays, les classements, etc. Et puis un mode en ligne qui est super bien fichu.
Mais surtout que maintenant, on peut dire, parce qu'on va parler un peu du jeu en kit, effectivement, qu'il sort peut-être un peu tôt par rapport à ce qu'il pourrait proposer au final. Mais en même temps, le timing est juste ce qu'il faut pour que les joueurs pro puissent commencer à se plonger dedans pour que. C'est avant l'Evo, c'est ça
Je sais plus ce qui commence là tout de suite. Mais c'est des qualifications pour je sais plus lequel.
Bah voilà, et donc c'est déjà pour ça qu'ils le sortent, à mon avis, pour pouvoir permettre à des grands noms du jeu de baston, de l'e-sport, de pouvoir se plonger dedans. Et après, comme tu disais, dans 6-7 mois, là il sera complet.
Là il sera complet.
Et puis sans cautionner cette politique, parce que c'est vrai que c'est un peu scandaleux qu'il n'y ait pas certains trucs, de base. Ils ont voulu faire un peu ce que font pas mal de jeux modernes aujourd'hui. L'exemple qui me vient en tête, c'est Splatoon, qui est sorti avec un contenu, on va dire, limité, tout en disant aux joueurs, attendez, vous allez vous faire la main là-dessus, mais nous, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, on va rajouter du contenu et vous allez apprendre progressivement à jouer au jeu, à avoir tel ou tel contenu,
etc. Mais justement,
on connaît
un petit peu le calendrier, l'agenda.
Oui, on connaît.
Alors voilà, on a dit ce qu'il n'y avait pas aujourd'hui. Alors, c'est pas prévu qu'il y ait un mode arcade.
Non, pas de mode arcade prévu.
Vu la grogne qu'il y a autour
du sujet,
j'ai pas
l'impression d'être le seul à en parler. J'ai pas l'impression d'être le seul à en parler.
Non, mais à mon avis, ils vont le faire justement.
Oui, je pense.
Mais donc, il y a un calendrier. Et Johnny One, tu vas décliner en mars de contenu gratuit. Hein.
Ouais, donc en mars, il y a un mode défi qui arrive. Qui lui, bon, je peux pas juger, je l'ai pas testé. Mais je pense que ça va être sympa. Voyant ce qu'ils ont fait, le travail qui a été fait sur le mode training, puis connaissant Capcom quand même, qui nous propose d'habitude des trucs de qualité. Donc le mode défi en fait qui va arriver, donc le mode défi
mars,
donc là ça va arriver assez rapidement. Lui il sera en trois parties en fait. Il y aura donc un défi combo classique comme celui qu'on avait dans Street 4. Vas-y, je te marque les inputs à l'écran et toi tu recopies et t'essayes de placer le combo, voilà, et c'est de plus en plus dur. Il y aura un mode comme ça, il y aura un mode avec des qui lui risque d'être un peu plus amusant, avec des boss uniques. Par exemple, il y a une image sur le net, donc une image éditeur Capcom, où on voit, je sais plus, je crois que c'est Ryu, qui se bat contre un gars random de fond de décor. Voilà, un gars qui est dans un décor de stage.
Et là, ils n'ont pas été très précis sur ce...
Non, en gros, voilà, ce sera des petits combats uniques. On voit aussi une autre image éditeur où c'est Bison. Donc, je pense là, le boss, c'est Bison. Et donc, il a une attaque... qu'on reconnaît, que j'ai vu tourner dans le jeu. Et donc là, l'attaque de Bison sur le screen editor, il y a des lumières de partout, enfin un personnage pété quoi.
Mais il y a des nouveaux persos aussi.
Ils mettent des twists quoi, voilà, ça va être un mode twist sur des personnages.
Ouais,
quoi.
Voilà, des trucs comme ça. Et puis des défis quotidiens et hebdomadaires, genre fait tant de dragons.
Oui, tu vois, tout est fait
voilà.
Pour fédérer la communauté, tous les jours quoi, et tout le temps, sur toute l'année.
Il y a ce mode-là, une boutique aussi qui arrive.
Des
nouveaux persos, un par
mois.
Il y a
6 nouveaux persos, non
6, le premier c'est Alex en mars. Ensuite, j'ai lu la liste, mais je ne l'ai plus en tête. Je sais qu'il y aura le boxeur.
Ouais.
Mike Bison.
Et toujours pas de rien sur Blanca.
Ouais.
Non. Mais donc Blanca, si tu
personnage
voulais
visiblement
jouer,
favori de Yoshinori Ono, en plus.
Alors si tu veux jouer Blanca, tu peux te rabattre sur un personnage qui n'a rien à voir, qui est Laurent.
Physiquement, elle n'a rien à voir, c'est certain. Ouais.
Physiquement, elle n'a rien à voir. Elle est brésilienne et elle a
comme
une
Blanca,
boule de feu électrique et son spécial est électrique. Si elle fait des tours, en gros, elle chope le truc et ça fait des tours.
Laura.
Donc c'est un peu la fille spirituelle de Blanca, mais elle n'a rien à voir avec Blanca. Voilà.
Bah, physique quand même, les trucs électriques, les boules,
oui,
les
le truc électrique ça tourne, mais ça n'a rien à voir.
Physiquement, c'est un autre truc. C'est plus agréable à regarder qu'un gros monsieur vert.
Son second costume,
Non.
C'est un peu bon, marqué Bonita.
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 Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, il faut qu'il fasse gaffe à l'ONU du côté de Street Fighter.
Et les nouveaux persos, c'était le mois de mars aussi ?
Ouais, il y en a un là qui débarque. Tout
et
de
alors,
suite.
Si on a bien compris pour les nouveaux persos, on pourra les acheter.
Oui, avec mais... du vrai.
Ah oui, alors eux, ils sont pas gratuits. Ouais.
Mais alors, non.
Mais il y a une monnaie à l'intérieur du jeu, une monnaie in-game.
Il y a un autre truc qui va arriver en contenu solo. Donc, on a dit les défis là au mois de mars. Et un mode story, un peu sur le mode de ce qui se fait chez Mortal Kombat. Donc, avec en fait une longue cinématique de 1 ou 2 heures, je sais pas vraiment le temps que ça va faire, hein, ponctué de combats. Voilà, donc un espèce de vrai mode story. Enfin, je sais pas si vous avez joué au Mortal Kombat, les Injustice et compagnie. Moi, j'avais assez apprécié.
Il y a un gros scénar.
Voilà, un gros scénar.
C'est carrément super production.
C'est bien fichu.
C'est même super bien écrit. Hein.
C'était vraiment pas mal. Moi, j'avais bien aimé Injustice. C'était cool. Ouais. Voilà, le Mortal Kombat versus DC aussi était sympa. Voilà, enfin bon, bref, donc une espèce de d'histoire ponctuée de combat. Donc ça sort en juin. Donc
et c'est gratuit.
Ouais, ça va être gratuit.
C'est c'est juin quand même. Ça nous met loin. C'est pour ça le ton test était
perso,
très
7 mois.
Indispensable dans 7 mois parce que voilà, dans 7 mois on aura tout ce qu'ils ont promis.
Exactement.
À ce jour, tout en disant dans la petite image qu'ils ont produite, disant détaillant le menu, avec marqué derrière "More to come", quoi. Donc, plus de choses à venir.
Alors donc, en fait, là, sur les 6 premiers mois, on va avoir donc 6 personnages. Rien en juin ou juillet, le mois où il y a le mode histoire qui arrive, il n'y a pas de perso. Les 6 autres mois, il y a un perso. Alors les persos, on va pouvoir les payer avec un season pass, avec son vrai argent qu'on a durement gagné à la sueur de son front. Mais on pourra aussi les acheter avec la monnaie du jeu, la monnaie qu'on gagne en faisant des combats.
Sauf qu'ils n'ont pas expliqué.
Non, ils n'ont pas donné
à combien de monnaie.
Il n'y a rien dit encore.
Alors justement, moi j'ai fait
millions de milliards.
Parce que ouais, si tu peux pas t'en payer alors que t'as joué pendant 6 mois, enfin.
Justement, il y a une petite analyse là-dessus à faire, c'est-à-dire que quand par exemple vous faites une survie, vous allez faire la survie en normal de Ryu. Voilà. Vous allez gagner de l'expérience et de la fight money, donc. Si vous refaites une deuxième fois la survie de Ryu en normal, vous ne gagnez plus la fight money. Et il faut savoir que y a un succès dans le jeu, un trophée, qui est gagner, économiser 1 million de fight money. Donc on pourrait penser peut-être
quand sans le jeu, t'arrives à 1 million. Ça peut être
ça. Je sais pas.
Bah oui, parce que si tu peux pas reproduire deux fois la même chose, ça veut dire que
c'est compliqué.
En faisant
parce
tout,
que tu sais combien tu sais combien tu gagnes en match en ligne ?
Non.
50.
Waouh !
Ah oui, pour 50. Arriver à 1 million, c'est chaud.
Pour arriver à 1 million, c'est chaud, quoi. Donc il va falloir doser les modes solo.
Ça va être le bordel.
Après, il y a un truc qu'il faut que je vérifie.
Combien de combats ?
Il y a un truc qu'il faut que je vérifie que j'ai pas pu vérifier.
2000 ?
J'ai fait le calcul sur la news de je sais plus qui c'est qui l'a mise. Ça fait 20 000 combats.
20 000 combats.
20 000 combats.
Voilà, 20 000 combats.
Pour avoir 1 million.
Vous avez jusqu'au mois de juin pour faire 20 000 combats.
On va voir combien ça fait par jour.
Il y a un truc en fait que j'ai pas pu vérifier, moi, parce que les serveurs étaient plantés hier.
Ça fait quand même 55 combats par jour.
Ouais.
Allez, si vous ne jouez que je sais pas la moitié de l'année,
bah si tu te prends que des branlés en même temps, ça va hein.
2000,
ça peut aller vite. Hein.
Par, allez, si vous jouez 200 jours par ça fait déjà 100 combats par jour.
Bon, c'est là il y a un truc dont j'en parle mais je l'ai pas vérifié en fait, ça, parce que moi pendant ma phase de test, tous les jours le serveur était remis à zéro. C'est-à-dire il fallait que je reparte ma progression était effacée.
C'était avant le day one,
avant la sortie, toute la semaine avant la sortie, ma progression
était
effacée tous les soirs.
Tu fais des jeux pour blog maintenant. Hein. tu fais des matchs et machin, zéro la bulle.
Tous les jours tu repartais niveau zéro, quoi.
Ouais, je repartais niveau zéro tous les jours.
Merde.
Et donc hier, j'ai pas pu tester parce qu'ils ont quand même lundi ils ont arrêté de reset. Le jeu sortait mardi. Ma progression de lundi, ils me l'ont laissé. Merci, c'est gentil. Voilà. Et hier, j'ai pas pu jouer au jeu en fait, mardi, parce que les serveurs étaient un peu plantés.
Oui, alors, mardi, jour de la sortie. On va continuer à vérifier ça. Et à la même manière qu'avec les warnings day one, il y a peut-être quelque chose à faire pour prévenir les
joueurs. J'ai pas pu tester le fait, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux faire la survie tous les jours, une fois par jour, et gagner, genre, je fais la survie en normal de Ryu, je gagne mes 15 000 points. Est-ce que je peux le faire une fois par jour ou est-ce que je le fais qu'une seule fois?
Attendez, j'ai dû rater un truc, mais c'est quoi la survie?
C'est le mode survie, mode survival.
On en a pas
les vagues d'ennemis,
voilà.
Non mais tu suis bordel.
Pas du tout. Moi, je suis spectateur de ce truc.
Hein. Spectateur dans les espoirs.
De Mortal Kombat.
Exactement. Bon bah écoute, je crois qu'on a fait le tour.
Conclusion.
Même, l'argent
conclusion.
Oui, conclusion. Absolument.
Franchement, c'est un super jeu. Moi, je kiffe. Voilà. Je l'aime beaucoup. Il est beau. Contrairement à ce que certains peuvent en dire, je pense que.
Moi, je le trouve toi-même très beau.
Oui, il est très joli. Hein,
voilà. Après, si vous êtes un joueur occasionnel, c'est vrai que malheureusement, ça va manquer un peu de contenu. Voilà.
Et l'aspect, donc, l'aspect géant kit qui peut agacer.
Bon, ça, de toute façon, on a l'habitude. Hein. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier.
Mais enfin, là, c'est une institution. Là.
C'est,
ouais, je veux dire,
c'est Capcom, les gars.
Hey, oh. Hey, oh,
là, pour le coup, s'ils nous ont pas menti, je dis bien, j'insiste sur le mot le mensonge, quoi, parce que là, ce serait vraiment un gros mensonge.
S'ils n'ont pas une phobie administrative, ouais. Ou un truc dans le style.
Ouais. Ah, ils nous ont vraiment dit que ce serait la seule unique version, c'est-à-dire la galette que vous achetez demain chez.
Sur toute la génération, elle va durer.
Certes, vous aurez des mages, il faudra peut-être passer à la caisse de temps en temps si vous voulez avoir certains persos. Voilà, c'est censé durer toute la génération. Voilà, jusqu'à
donc
Street 6.
Donc pas de super Street Fighter 5.
Non, pas de super. Voilà. Des mises à jour constantes, c'est-à-dire là, on part sur un Season Pass. À 30€ avec 6 personnages qu'on pourra donc payer avec de la Fate Money, mais à quel prix et dans quelles conditions, ça on sait pas bien. Voilà.
Toi, ton pronostic, voilà, c'est qu'il va y avoir un season pass par an.
Moi, un season pass par an, je pense.
À mon avis, c'est ça qu'ils veulent faire.
Après, même sans mentir, tu peux, tu peux détourner le truc. Hein. Tu sors Street Fighter 6 dans un an, puis tu fais. Ouais. Ah, on l'avait dit.
C'est vrai que sur Xbox One, ils ont fait un principe un peu pareil avec Killer Instinct. Chaque année, season 1, season 2, etc.
Puis ça leur convient, ça marche pas mal.
Je sais pas si ça marche bien, mais en tout cas, il y a du vrai contenu apporté régulièrement, etc.
Bon, voilà.
Depuis qu'il est sorti.
En conclusion, donc.
Moi, j'aime ce jeu.
Ok, donc tu le conseilles quoi qu'il arrive aux amoureux de Baston.
Mais en fait, j'ai même envie de dire, si vous comptez y jouer dans 7 mois avec la version complète, c'est peut-être presque mieux de l'acheter maintenant.
Ah bah, vous
pour pouvoir
doser.
Engranger de la fake money.
Bah oui. La, même, y a
c'est
pas
là
que ça.
Le système est quand même pervers.
Pernicieux. Si, si tu commences en retard aussi, tu prends du retard tout simplement sur les.
Tout le monde va
progresser. Tout le monde va progresser.
Parce que là, les gens sont en train de le découvrir.
Ah oui,
on ne sait pas encore quel perso est bon.
Oui. Donc moi, j'ai pu voir la différence.
Combo marche bien, et tout.
J'ai pu voir la différence. Tu sais, donc j'ai eu le jeu mardi dernier. Donc mardi dernier, quand j'ai commencé à faire des matchs en ligne, le niveau était très haut. Et en fait, plus la semaine avançait à la sortie, donc plus des gens arrivaient à se procurer le jeu,
plus
le t'avais niveau...
de gens à battre.
Non,
bah
plus,
parce que t'avais
plus je gagnais de matchs.
Bah
en
ouais,
fait,
voilà, il y avait des gens débutants qui se mêlaient au truc.
Exactement, il y a des gens débutants qui se mêlaient au truc. Et là, lundi soir, c'était la fête.
Venez,
enfin voilà.
Ok, très bien. Bah écoute, tu recommandes d'y jouer tout de suite.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup pour ce nouveau test, on va dire. Mais vous pourrez retrouver évidemment le test vidéo, le test écrit de Johnny One si vous avez encore d'autres précisions, si vous nécessitez encore d'autres précisions concernant Street Fighter V qui est sorti ce 16 février sur PS4 et PC. On va passer au deuxième thème du podcast qui, lui, eh bien, va concerner. Bon, là, c'est un petit son Quantum Break que j'étais voir en Finlande il n'y a pas très longtemps parce que ça, c'est un peu parti de lui, cette idée. Puisque quand on vous a fait part de nos impressions de Quantum Break, en même temps, eh bien, on vous a confirmé une rumeur qui courait un petit peu depuis quelques temps.
Elle court, la rumeur,
voilà.
La rumeur de l'exclu maudite.
Pourquoi tu chantes?
Parce qu'elle court, elle court.
D'accord. Non, parce que tu devais répondre comme dans la pub. Mais parce que quand je parle, vous n'écoutez pas.
Ah, elle est bien cette pub.
Oui, elle est rigolote. T'aurais pu faire cette réponse-là, tu ne l'as pas fait. Cette
non, tu les as... Putain,
complètement
à l'eau. Poufi, on recommence le podcast.
Non, on va pas recommencer le podcast. Alors, le jour de nos impressions de Quantum Break, on apprenait que Quantum Break sortirait le 5 avril,
non
lui aussi, sur PC.
Putain, mais...
Bon, c'était pas vraiment une surprise au final pour beaucoup de monde. Mais le problème, eh bien, c'est qu'avec cette annonce, il y a d'autres choses qui commencent à émerger, d'autres rumeurs. Et on se dit... Mais ça se trouve, la Xbox One, elle va servir à quoi maintenant au niveau des exclus?
Elle va servir à quoi?
Bah oui, c'est ça la question qu'on se pose. Parce que si on nous dit que Halo aussi peut-être arrivera, Gears of War 4, Forza, et j'en passe sur d'autres licences qui sont normalement réservées à la Xbox One.
Excusez-moi, monsieur. Mon petit Molinaro.
Monsieur Chiez.
Tout le monde n'a pas un PC.
Ça coûte cher.
C'est vrai.
Voilà.
C'est exactement
tout
ce
le monde
dire.
N'a pas un PC gamer. Parce que je veux dire, si c'est pas un PC qui te fait le jeu de la même qualité qu'une Xbox One, bah franchement, ça sert pas à grand chose. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc vaut mieux avoir un PC gamer. Quand on parle d'un PC gamer, allez, on va prendre une bonne carte. La carte déjà va coûter au moins une fois et demie, voire deux fois le prix de ta Xbox One. Bon. Puis après, il y a tout l'entourage, enfin tout le reste, les composants, la RAM, la carte graphique, tout ça, j'ai dit, le processeur, machin. Bon, bref. Tout le monde n'a pas envie d'avoir un PC. Je veux dire,
un PC de jeu en tout cas.
Ouais, non, mais même un PC tout court.
Un PC, ça peut coûter 300 balles aussi.
Bien sûr.
Oui, mais tu fais
pas tourner Quantum Break.
T'as des gens aujourd'hui qui se suffisent largement de leur smartphone, ou d'une tablette ou autre. Donc déjà, c'est une partie de la réponse quand même.
Et parce qu'on a vu quand même des réactions assez étonnantes dans la communauté, ici et là, chez des joueurs. On sait très bien que quand on achète une console, on devient une espèce de supporter d'un camp.
C'est un peu
En opposition à un autre. Et donc il y a des gens qui ont une Xbox One, qui ont acheté une Xbox One, et qui, du fait de cette annonce, se sont dit: ah bah voilà, je me sens trahi, je vais revendre ma Xbox One puisque je ne sers à rien.
Je vais prendre l'exemple tout bête, mais je suis pas.
C'est de la frustration un peu.
C'est de la frustration.
Mmh. Alors c'est de la frustration. Attendez, excusez-moi, parce que je vais prendre mon exemple.
Monsieur Molinaro,
je vais prendre mon exemple personnel. Moi qui
s'en fout,
moi,
putain,
moi qui suis toujours j'essaie toujours d'avoir un PC à peu près à jour pour pouvoir jouer justement dessus, et le truc c'est que j'ai quasiment acheté ma Xbox One pour Quantum Break.
Et alors
Et alors maintenant j'ai envie d'y jouer sur PC.
Et alors attends, et
je ne dis pas que je suis une généralité.
Je vais te poser une question.
Oui.
Donc tu as acheté, tu parles donc au passé, une Xbox One.
Ouais.
Ok. T'as joué à rien sur Xbox One depuis
bien
que
sûr.
Tu l'as acheté. Bah
mais,
voilà. Bon.
Mais je me mets à la place de personne.
Non mais et les jeux auxquels tu as joué.
Oui.
Tu pouvais y jouer ailleurs ou pas?
Sur PC?
Non, je sais pas. Enfin, les jeux que t'as acheté. Est-ce que t'as acheté des... Je sais pas. T'as joué à Halo? T'as joué à Forza?
Non.
T'as joué à aucune exclu? T'as acheté une Xbox One pour jouer à
du multi? Tu cites les mauvais titres pour moi là.
Alors non, mais t'as joué qu'à du multi?
Quasiment, ouais.
Multiplateforme, je veux dire.
Ouais, absolument.
Bon,
ouais.
Alors t'as fait une connerie. Qu'est-ce que je te dis?
Voilà, donc...
voilà. Et voilà, la démonstration est terminée.
La semaine prochaine, on se retrouve avec un nouveau podcast.
Non, mais il peut y avoir dans l'esprit de certaines personnes. Après, ça peut aller dans des extrémités aussi. Je vois Phil Spencer, par exemple, qui a dû faire face à une vague de personnes qui étaient profondément de mauvaise foi. Genre, ah bah ça y est, vous l'offrez sur PC, etc.
Non, mais alors attends, on va prendre des cas. Parce que tu prends des cas personnels, on va peut-être généraliser des familles de joueurs.
C'est juste.
Moi je suis une autre famille. Alors je suis comme toi, j'ai acheté une Xbox One dès le lancement. Moi j'ai joué à plein d'exclus. Et je considère par exemple que Ori était une exclue pour mon cas à moi, qui personnellement, contrairement à toi, n'a pas de PC. Et j'en veux pas. Et pour l'instant j'en veux pas. Peut-être qu'avec la réalité virtuelle j'en voudrais un, sauf si j'arrive à me satisfaire du PlayStation VR par exemple. Bref, pour moi il n'y a aucun changement vis-à-vis de Quantum Break parce que j'ai pas de PC.
En tout cas je pense que Julo représente une partie, je ne saurais pas la quantifier, mais enfin un nombre important de joueurs qui effectivement sont peut-être des consoleux, et ce n'est pas sale, et non pas soit un bon PC, soit ne souhaitent pas avoir une machine pour jouer, ils ont peut-être pas envie d'avoir un câble à relier à leur télé par rapport à leur PC, ou à mettre un système, ils ont peut-être pas envie d'avoir le Steam Big Picture, je sais pas quoi, bref, ils veulent un truc entre guillemets un peu plug and play, même si cette génération, il y a pas mal de mises à jour, etc., ça reste quand même vraiment... Moi, j'ai pu le voir avec des potes qui jouent sur PC. Il y a encore quand même des drivers installés. Il y a encore des trucs, etc. C'est pas aussi simple encore que
non,
sur console.
Tout.
Alors oui, bien sûr, quand tu as les moyens. Mais des moyens non négligeables.
Bah surtout pour la config de Quantum Break, oui, je confirme.
Pour la config de Quantum Break, bon, qui a été remis un peu... Qui
et
a été
de tous les mais ça reste costaud quand même.
Voilà, et eh bien, franchement, avoir une console, c'est pas la fin du monde. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui se satisfont largement, et une fois de plus... Ce n'est pas sale, des graphismes que proposent la PS4 et la Xbox One aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on peut, alors après je me mets dans aucune situation, mais est-ce qu'on peut, quand on est joueur, ne pas avoir de crainte quant à l'avenir justement des exclusivités sur la Xbox One?
Eh ben, je pense que là,
parce que je sais qu'Aaron Ringberg a essayé de rassurer justement après en disant mais si il y en aura toujours, hein, vous inquiétez pas.
Effectivement, ils ont dit qu'il y aurait encore d'autres exclusivités vraiment console et que ça sortirait pas forcément en simultané sur PC. Bon, je pense que là les semaines à venir vont être très intéressantes du côté de Microsoft.
Putain, on a carrément
rendez-vous et Gameblog sera présent sur place à San Francisco pour une keynote de Phil Spencer. C'est le 25 février, si je dis pas de bêtises, donc c'est très bientôt.
Qui concerne la Xbox One et
Windows
10.
Au moment où ces rumeurs arrivent et qu'il y a la rumeur Steam, etc.
Exactement. Et à l'E3, ils devraient enfoncer le clou sur vraiment quelle est leur philosophie, leur point de vue et qu'est-ce qu'ils vont faire entre vraiment, on le sent, ce mariage d'autant plus clair entre le monde du PC.
Bah, c'est l'unification Windows 10, quoi, tout bien.
Justement.
Et donc, quand même, si d'avenir, demain, était annoncé que les jeux du catalogue Steam étaient jouables sur Xbox One,
exactement,
autant te dire quand même que là, bah par exemple, ton fameux Street 5, qui est une exclue console PS4 et PC, bah finalement, ta Xbox One,
on peut revenir justement sur ce
parce qu'en fait, la Xbox One deviendrait une Steambox.
Bah
on peut revenir sur
un hardware figé. un hardware figé mais conséquent.
Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire de Steam justement?
Justement. Ouais, alors moi
qu'est-ce
je sais pas
Xbox
exactement.
One
moi je
Steam
voudrais
Box,
juste
ce serait très très fort ça. Hein.
Parce que
ça
quand même il faut se rendre compte que la Xbox One a été présentée d'une certaine manière à l'E3 avant qu'il y ait un virage total, changement de la façon dont l'écosystème Xbox fonctionnait, et là en une seule génération, on va peut-être avoir le deuxième gros changement en fait hein. Parce que Julien l'évoquait, imagine le catalogue Steam arrive sur Xbox One qui devient par le truchement de Windows 10 finalement un mini PC fermé avec une structure bien définie.
Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui nous permet de penser ça en fait? Parce qu'il y a eu une rumeur, une chose qui a été dénichée, un nombre de domaines.
Il y a des noms de domaines, Steam Xbox qui sont sortis. Bon, alors évidemment.
Il a été récemment renouvelé.
Il a été renouvelé parce qu'on voit bien quand même la synergie entre Windows 10 et la Xbox très clairement. Après, on peut voir aussi ça sous un autre angle. Est-ce que Microsoft va pas vouloir fermer les choses? Au contraire, il y a vraiment. On va être fixé là dans les 10 jours à venir.
Oui, parce que Quantum Break n'est pas prévu sur Steam du tout.
Exactement. On peut très bien se dire aussi qu'ils vont peut-être tout mettre sur leur store à eux.
Alors, ça,
et donc arriver dans une autre phase qui est une guerre des stores entre d'un côté Steam et de l'autre. Bon, ça ce serait techniquement peut-être, enfin probablement moins intéressant pour les joueurs à pouvoir en parler.
Oui, mais on se dirige vers ça clairement hein, parce que la dernière rumeur en date qui nous vient d'un site chinois habituellement bien renseigné sur toutes les questions de Windows disait que, tu le disais en préambule, Forza 6 qui est déjà un jeu déjà sorti, mais aussi les jeux à venir que sont Gears of War 4 quand même, c'est pas n'importe quoi,
Scalebound
qui est aussi une prochaine grosse exclue, et un potentiel
Forza Horizon 3
pourraient eux aussi faire partie des jeux, et donc ce serait une espèce de généralisation. Et bien eux disaient que tout cela c'était un move qui était consécutif d'un changement de politique éditoriale gaming du côté de chez Microsoft qui allait donc vers cette unification et un push du Windows Store. Voilà. Donc il est très probable que ce soit effectivement pas forcément sur Steam.
Et je pense vraiment qu'on est maintenant à quelques encablures de l'arrivée d'une nouvelle Xbox qui va véritablement être une box qui va virer le lecteur optique, plus de Blu-ray, qui aura un bon disque dur, et à l'intérieur tous les jeux vont être soit en streaming soit à télécharger, pour arriver avec une machine avec un design remanié, une sorte de Xbox Slim,
ça serait pas
un
mal.
Prix d'entrée plus bas avec des entrées directes vers le Xbox Store, que ce soit la musique, le cinéma et les jeux vidéo. Et donc, bah, qu'est-ce que c'est l'idée? C'est d'avoir véritablement une entrée de gamme grand public, et là-dedans, on peut même inclure des joueurs passionnés, mais consoleux, quoi, qu'on peut
sans avoir, oublier l'aspect télé, etc. Qui peut,
moi, j'attends
qui peut,
ça.
Ça peut devenir une set-top box qui fait tout.
Bah voilà. Et donc, t'as ta machine qui te fait du jeu vidéo sur le store, de la musique, du machin, etc., qui sera vraiment pas cher, peut-être à 199 ou autre, qui aura un design plus fin, plus joli, entre guillemets, même si tout ça est subjectif.
On pourra poser verticalement.
Ça, je ne sais pas. Et qui serait, à mon sens, annoncé à l'E3. C'est quand même quelque chose, on le sait, qui a été vraiment dans les tuyaux, dans les réflexions, même au début du projet Xbox One, qui, avec tout le pataquès qu'il y a eu, a dû être mis un peu de côté. On l'a vu ressortir, ressurgir, il y a quelques mois, justement, que ça devrait être annoncé, puis machin. Et bon, honnêtement, si on regarde un peu sur les dernières années, dans le monde du jeu vidéo et le monde du high-tech en général, combien, quel est le pourcentage de rumeurs à partir du moment où elles sortent pas d'un petit site obscur et machin, qui se sont avérées vraies, même si c'est très peu néonasmique, qui se sont avérées, qui ont été avérées à plus ou moins long terme, échéance, véritablement, moi je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Et donc, bah voilà, deux familles de joueurs. Ceux qui sont vraiment des ultra passionnés, qui ont un petit chéquier, ou en tout cas pour qui le jeu vidéo c'est vraiment super important, qui veulent vivre les expériences sans concession, avec le truc high-end, pour eux c'est primordial, et ils peuvent mettre 1500 balles, 2000 balles, voire le renouveler tous les 2-3 ans pour avoir le méga PC. Et dans ce cas-là, bah génial, ils vont avoir Halo, Forza, Quantum Break, Scalebound.
Ce que tu veux dire, c'est que tout le monde est gagnant de toute
façon. Exactement, dans la meilleure qualité possible sur leur méga PC de ouf. Et puis les autres, pour qui bah, le jeu vidéo c'est important, a plus ou moins le curseur plus ou moins haut, mais pour qui une machine qui fait déjà du 1080p correct sur leur télé, qui est pas
puis
trop complexe.
Puis quand
tout le break,
vous l'avez tous vu sur Xbox One, c'est magnifique.
C'est magnifique.
Mais je peux témoigner déjà, même en y jouant, c'est ça défonce.
Donc pour qui c'est suffisant de mettre 400 balles dans une machine pour avoir du jeu vidéo et machin, et bah ils ont aussi cette expérience là. Et je pense que là, Microsoft ne fait clairement pas un mauvais choix. Il coupe deux familles de joueurs qui auront tous les deux l'expérience au niveau qualitatif et de prix qui leur sied.
Autour de même licence,
voilà.
etc.
Voilà, il est réuni.
Qui deviennent des licences Microsoft plus que des licences Xbox.
Ça devient l'exclu Microsoft. Plus de l'exclu Xbox ou Xbox One.
Ou alors, ou exclu Windows, puisque. Voilà.
Et du coup, on peut considérer la Xbox One comme un petit PC.
Bah oui,
mais, tu sais, la PS4 est aussi un petit PC.
Alors, je pense aussi que tu peux quand même être considéré comme un vrai hardcore gamer et rester sur console sans.
Bien sûr, c'est pour ça que je mettais curseur plus ou moins haut. C'est-à-dire que. Enfin, je sais pas pour nous, mais ici, on est au sein de la rédaction, on est plusieurs à ne pas avoir de PC, pas avoir dans l'immédiat en tout cas envie d'acheter un PC. Et peut-être. mais pour autant, enfin, on trouve ça très bien son PC. On a bien compris que c'était plus.
C'est quoi,
son
j'avais
PC
envie de faire.
Je comprends. Mais moi, j'ai envie d'un PC, mais pour la réalité virtuelle. Et on se satisfait largement d'une PS4 ou d'une Xbox One, voilà. Et pour autant, je pense pas qu'on, on se considère pas comme des casus. Évidemment, non. Et puis même, enfin, je veux dire, à chacun son truc, quoi. C'est
on
pas
a le droit d'être un casu aussi, hein.
Mais
c'est pas
tard. Largement
c'est,
droit d'être
c'est
un casu.
C'est une question de budget, dans, tout à fait. Entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme.
Et d'importance que tu mets aux jeux vidéo. Est-ce que tu joues à fond tout le temps ou est-ce que tu joues pour toi, c'est un divertissement. Tout le monde, il y a plein de gens qui se satisfont d'un lecteur DVD, qui ont pas envie d'un lecteur Blu-ray, ou qui ont un lecteur Blu-ray, mais qui ont pas toute l'install son.
C'est précisément en cela que si c'est vraiment ça le move de Microsoft, il est intelligent. Parce qu'ils ratissent large. Voilà. Ils ont tout le monde.
En tout cas, ce sera très intéressant de voir et de suivre
cette conférence
la keynote
en février,
de Phil Spencer la fin février et le 3 parce que je pense que tout ne sera pas dévoilé.
Oh, il y aura même encore la GDC aussi avant, si
ah
je
bah ça c'est en mars.
Ouais.
Oui, mais je suis pas sûr.
On fait pas les plus grosses annonces
non,
à la GDC.
Il n'est pas prévu d'annonce tonitruante.
C'est ton jamais.
Microsoft. Oui, c'est ton jamais.
C'est ton jamais.
Mais je pense qu'ils vont pas, peut-être pas, enfin, trois fois en l'espace de trois mois, c'est un peu beaucoup quand même.
Je sais pas, plus je vois Philo, plus je suis content.
Non, pour moi, je pense qu'ils vont mettre la philosophie en avant et ce qu'ils veulent faire, le message, là, sur leur keynote dédié, et qu'ils vont montrer leur box nouvelle qui unifiera tout ça à l'E3.
D'accord.
Le message dans un premier temps, la concrétisation physique dans un deuxième temps.
Bon, et rappelons aussi que Quantum Break, quand même, si vous le précommandez sur Xbox One, vous obtenez une version PC gratos dont vous pouvez faire absolument ce que vous voulez.
Ouais, vous pouvez
ce qui est quand même un beau message aussi.
C'est plutôt cool.
C'est même, je trouve ça assez extraordinaire. Et d'ailleurs, Phil Spencer avait répondu sur Twitter à un mec, d'ailleurs, qui lui disait mais qu'est-ce que c'est que ces conneries. Il disait bah de toute façon, personne te met le couteau sous la gorge.
Je trouve toujours étonnant de s'offusquer de qui peut le plus, peut le moins. Quoi.
Exactement. C'est-à-dire que, si on ne prive pas de ta version Xbox One ou
t'as
on prive
une Xbox
de rien.
One, t'auras ton Quantum Break, genre le même que ce que tu aurais eu. En fait, il sera pas moins beau. Il arrivera pas en retard.
Et tu pourras même y jouer sur les deux machines en cross sauvegarde, ce qui est quand même.
Ça c'est plutôt cool aussi.
C'est assez unique aussi dans son genre.
Il faut casser cette espèce de délire un peu de fanboyisme d'une machine. Il y a plein de gens qui ont une PS4 et une Xbox One et réciproquement, il y a plein de gens qui ont une Xbox One et un PC, des gens qui ont une PS4 et un PC,
des
gens qui ont qu'un PC, des gens qui ont rien. Enfin voilà et c'est pas bien grave pour les
aussi là-bas il y a des gens qui ont tout aussi plus loin
Poufy,
du côté de chez Poufy
il a tout du côté de chez Poufy ça c'est faut qu'on lance une chronique du côté de chez Poufy découvre le jeu vidéo en 4K en 125 000 images secondes et déglinguez-vous les yeux.
Ah non au contraire il gagne des dixièmes à chaque fois qu'il regarde
c'est
son écran à la rédac.
C'est effectivement c'est celui qui est le mieux équipé même à la rédac.
C'est un écran combien 5K 4K
je
sais plus chez toi mais à la rédac Poufy. C'est 5K là.
C'est quoi ta résolution d'écran là? C'est sur son écran, c'est
il met les icônes en microscopique en plus.
Microscopique.
C'est
ouais, mais il améliore sa vue tous les jours. Alors que nous, avec nos écrans,
on se pète les yeux.
Quand
nos écrans
est,
de
quand
rédac,
il est sur
c'est
internet,
juste impossible.
Son l'affichage de son site internet est zoomé 250 fois. C'est ça, non? Ou 200 fois?
Ouais, mais avec ça, il est très précis quand il fait des montages.
100%.
Quand il fait les montages de nos introductions d'impression vidéo.
À la fois sur internet, il ne s'appelle pas Poufy. Il s'appelle Insolite et jeux vidéo. Je me rappelle. Bon voilà.
En tout cas, on aura compris. C'est pas forcément quelque chose de mauvais et on suivra surtout.
Alors, si Steam arrive sur Xbox One, d'une manière ou d'une autre, en streaming ou autre,
là,
c'est quand même retentissant.
Alors, j'ai du mal à imaginer un tel accord.
Ah, s'ils arrivent à faire ça, ils reviennent au niveau, je pense, de
mais
Sony.
Mais pourquoi pas un tel accord
Non,
mais j'ai du mal à l'imaginer.
Non,
parce
mais attends, Microsoft et sa Xbox
parce que
sont déjà proches de Steam. Ouais. Avec leur casque de réalité virtuelle, là, il y a eu un rapprochement.
Ouais, absolument. C'est la manette Xbox One.
Ouais,
qui
mais là,
c'est
Oculus, les gars.
Ah, c'est avec Oculus.
Ah,
c'était avec
Oculus. C'était pas avec.
Non, c'est pas avec Steam VR.
Ah, dommage.
Parce que. Non, mais attends, si demain ils te foutent Steam sur Xbox One, ils te vendent une Xbox One à tous les joueurs PC.
Ouais, mais j'ai du mal à imaginer que SteamOS.
Bah, non, les joueurs PC, ils vont toujours
avoir SteamOS, que la bibliothèque Steam arrive sur Xbox One. Franchement, j'y crois pas une seconde. Mais bon, peut-être que je me trompe.
Bah, techniquement, Steam n'a rien y perdre. Par contre, en gros, c'est faire rentrer quelqu'un qui te fait payer des sous dans une interface Xbox sur lequel Microsoft forcément voudra gagner de l'argent aussi.
Ouais.
Donc,
moi, j'y crois pas
quand même.
Trop, hein, malheureusement.
Malheureusement, je trouve qu'il y a des petits trucs de friction. Mais si tel devait être le cas,
eh ben, ça voudrait dire qu'il y aura peut-être une annonce de Half-Life 3 durant la keynote la semaine prochaine. Oh. Un truc de ouf. Bon, on verra.
C'est
ça.
Shenmue. Bon, enfin, ne rêvons pas trop.
Non, mais on rêve un peu parce que c'est vrai que au niveau business, Microsoft serait plus tenté, à mon avis, de demander aux gens qui publient leurs jeux sur Steam de les publier aussi sur le Windows Store.
Ouais, on avait
si pour faire valoir quand même. Je vous rappelle que par exemple FF7 Remake, il sort d'abord sur PS4 et sur PC, donc Steam. Bah, tu pourras avoir Microsoft qui arrive et donc chez nous. C'est-à-dire tous les jeux qui sont annoncés PS4 PC sortiraient aussi sur Xbox
certainement. On surveillera.
Bon, on verra. Tout ça n'est que supposition, un pourcentage pas très élevé forcément là-dessus. Sur le reste,
on verra.
Plus élevé.
En tout cas, comme chaque semaine, eh bien, nous avons décidé de vous faire part de nos
hors-jeux.
Et oui, chaque semaine, vous le savez, on vous parle.
Pas été répété,
cinéma, littérature, manga.
Je ne
l'ai
pas dit, je ne connais pas ces gens.
On est connecté.
C'est hors-jeu.
On est connecté entre nous. Bref, tout ce qui ne concerne pas le jeu vidéo, mais qui se rapproche un petit peu, qui gravite un peu autour.
Bon, ou pas.
Mais il y a un peu de jeux vidéo dans chaque truc dont on va parler.
Bon, pas le mien.
Et on va commencer. Alors, Julo. Je sais que tu voulais pas, mais on va en parler vraiment deux secondes. C'est un truc dont on a déjà parlé il y a quelques mois.
Le match de foot d'hier soir ?
Non.
Ah bon ?
Un truc dont Romain nous a parlé il y a quelques semaines. On va en parler vraiment, genre succinctement.
Bah non, mais tu m'as dit que j'avais pas le droit. Moi, je pensais que
j'avais pas le droit.
Mais
vraiment, genre une minute.
Si vous voulez faire rapidement, faites-le rapidement.
Rapidement. Donc toi, tu viens de découvrir.
Eh bien, j'ai découvert Jessica Jones.
Et ben, c'était super cool. Merci, Julo. On va passer maintenant.
Et c'est bien. Et c'est bien.
Il a dit que c'est bien.
Voilà. Julien, on va passer à ton hors-jeu maintenant, qui lui était un hors-jeu nouveau. Donc pas quelque chose que t'as été copié sur Romain ou sur moi, c'est quelque chose que t'as été voir ce week-end, et ça s'appelle...
Alors c'est le spectacle de Langevin, c'est un spectacle d'illusionnisme, de magie, mais mis au goût du jour. Vraiment, il est canadien, et il est absolument remarquable, vraiment, il se produit actuellement au Casino de Paris, et jusqu'au 28 février, il y a une semaine de date supplémentaire qui a été rajoutée devant le succès qu'il a, et franchement c'est amplement mérité. Ça dure à peu près 2 heures, il y a pas mal de numéros, enfin de petites séquences, de tours. L'univers est vraiment beau, assez poétique, un peu inspiré de la période Eiffel. C'est très créatif, il mélange un peu de modernité, des tours revisitées. Il y a la conclusion, c'est carrément il se téléporte, mais donc le mec se téléporte.
Attention au spoil.
Et franchement, bah, tu sais pas comment il fait, quoi. Enfin,
il a un frère jumeau peut-être, ou alors un clone qui aurait été créé par Tesla.
Là, ça parle dans le spoil.
Attention,
ne citez aucun film.
Et honnêtement, en plus, il sollicite le public assez admirablement. Il a un bon sens de l'humour, en plus. Donc, il y a un bon ping-pong avec la salle. C'est accessible. C'est beau, c'est poétique parfois. Il fait des trucs vraiment sensibles.
Il t'a fait monter sur scène, quoi, parce que je vois qu'il fait monter des gens.
Non. Et c'est vraiment remarquable. On passe vraiment 2 heures dans un autre monde. On oublie un petit peu tout le reste. C'est un talent fou. Vous pouvez aller aussi voir sur YouTube. Il a pas mal de vidéos où il fait d'autres tours. Moi, en particulier, si je devais retenir une séquence, il a un tour de cartes assez fou. Où en fait sur ces cartes, il a écrit, il y a des chiffres d'un côté, des formes de l'autre, et sur la tranche, il y a aussi quelque chose d'autre. Et en fait, il prend un ballon qu'il jette dans la salle, et les gens après vont la balancer par eux-mêmes en arrière, donc les trucs rebondis et tout. Donc en plus, si c'est un coup monté, je veux dire, waouh, c'est super bien fait. Ou chaque jour, ça va être le méga stress, quoi. Si ça rebondit sur une phalange et que ça va à côté, tu fais oups. Ou bien on était peut-être les seuls.
Peut-être que vous êtes 300.
C'est ça, en fait, il y avait que nous qui étions.
Il y a 300 accessoiristes et de spectateurs.
Peut-être, je ne sais pas. Non, mais imagine. Mais enfin bon, en bref, il demande les noms, les dates de naissance, il te fait des trucs avec des chiffres et tout. Enfin, c'est remarquable, c'est rythmé, c'est extrêmement bien. Je vous invite à y aller, et je sais pour ceux qui ne sont pas à Paris qu'un petit peu plus tard il va avoir une tournée aussi en province avec quelques dates, donc si vous le voyez passer, Langevin, c'est pas très cher en plus là au Casino de Paris, donc franchement c'est accessible.
J'allais te poser la question, ouais, combien ça coûte.
Bah ça dépend de ta catégorie de trucs.
Alors comme Julien il vient avec sa gold, tu vois, directement et tout.
Non mais l'entrée les premières places je crois sont vers les 20-30 euros, donc
ça va, c'est accessible pour
un spectacle comme celui-là. Ça dure 2 heures hein, quand même. Il y a beaucoup de choses. Il y a une belle scénographie, hein, une mise en scène qui est pas cheap. Enfin bon, c'est un son et lumière.
Tu m'as donné envie.
Vraiment, c'est très bien. Donc voilà, jusque si vous êtes parisien ou à côté, n'hésitez pas. Il vous reste quelques jours. C'est jusqu'au 28. Voilà.
Très, très bien. L'Angevin. Très bien. L'Angevin au théâtre. Non.
Casino de Paris.
Casino de Paris. Merci. On va passer eh bien à ton hors-jeu, à toi, Johnny. Toi, tu vas nous parler de Star Wars, dis donc. Ouais, c'est bizarre, alors, j'en ai pas entendu beaucoup parler de Star Wars ces derniers temps.
En fait, c'est un bouquin. Ouais. C'est un bouquin que j'avais quand j'étais jeune. Ça s'appelle l'Encyclopédie Illustrée. Mm-hmm. Donc moi, j'avais ça pour la prélogie et pour la première trilogie.
D'accord.
Alors, c'est un livre, c'est vraiment génial. Moi, j'avais ça, j'étais enfant, donc c'était... Wow, j'avais des étoiles dans les yeux quand je regardais ce livre. C'était un de mes livres préférés, je le regardais tout le temps. Ils y sont encore à la maison.
C'est quoi, c'est l'histoire du film?
Non, pas du tout. Alors, c'est l'Encyclopédie Illustrée. Donc, c'est en fait, tu as des photos de tout ce que tu trouves dans les films. Donc, les personnages, les vaisseaux, les sabres laser notamment. Et donc, tu as des vues en coupe de ces trucs-là. Donc, par exemple, on te prend le sabre laser, on te fait une vue en coupe, on te montre ce qu'il y a dedans. Alors là, c'est la batterie. Là, c'est le petit truc qui diffuse le laser. Là, c'est le cristal qui lui permet de. Et puis au-dessus. Ah non, c'est vraiment super. Moi, j'adore.
Est-ce qu'il y a une coupe de Kylo Ren?
Non.
Pour analyser ici, il y a un peu de terminal littéraire.
Non,
ici, il y a un petit peu de.
Le masque qui pleut.
Voilà.
Non, tu vois l'intérieur d'un casque de taille de pilote de TIE Fighter, là, dans celui-là.
D'accord.
Voilà. Y a moins de vues en coupe dans celui-là, là, celui que vous voyez là, à droite sur votre écran. Il y a moins de vues en coupe que, dans, que ceux que j'avais quand j'étais enfant, mais ça reste passionnant. Il y a un autre truc qui est super passionnant dans ce bouquin, c'est que ça vous donne plein de pistes sur tout ce qui n'est pas expliqué dans le film, en fait, tout ce qui a été coupé. Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé un peu aux easter eggs, aux scènes coupées. Les...
On parle de Kojima, du coup, ou pas?
Ouais, non, il ne parle pas de Kojima là-dedans.
Ah, bah ils ne sont pas complets, alors.
Il y a le bras rouge. Hein.
Ouais.
Est-ce qu'il l'évoque? Je t'avoue que je n'ai pas lu la ligne.
Il y a le bras rouge et il y a un extraterrestre qui dit vraiment fantôme, Kojima. Quoi.
Ouais. Et, non, en fait, par exemple, il y a tout un passage du film... Sans trop spoiler là, bon, je pense que tout le monde l'a vu là, maintenant.
Oui, mais bon.
Bref, quand ils font tirer,
attention,
là...
partez si vous l'avez pas vu, revenez plus tard.
Quand ils font là,
attention,
voilà, Zubida,
2, 3, 4, 5, voilà, voilà. Quand ils font péter un système entier,
non,
c'est pas Coruscant.
Ah oui, 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 bien sûr, parce que dans la façon dont c'est fait, tu comprends que c'est Coruscant.
Oui, toi, c'est ce que tu te dis.
Mais là,
en fait,
c'est installé ailleurs.
Exactement. Et par exemple, ce bouquin te présente un autre personnage qui est le personnage de Corsella. Quand la planète se fait détruire, par exemple, vous avez en premier plan une femme noire avec derrière elle un extraterrestre. On te dit qui sont ces personnages, qu'est-ce qu'ils font dans cet univers. On te montre la carte de l'univers, on te dit ces planètes-là, c'est celle-ci. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs hors champ qui ont probablement été coupés au montage. On risque d'avoir une version longue de ce film, je pense. Il y a tout un passage avec Leïla qui a disparu, tout simplement, où on voit Leïla justement aller au cinéma.
Leïla. T'es pas le premier à nous faire nous dire Leïla,
plein de gens
c'est
qui
bizarre.
Leïla, ouais.
Ouais.
Effectivement,
j'ai
cette chanson de Clapton.
Le tabac, le Millennium Condor. Voilà. Non, c'est vraiment passionnant parce que déjà on a les objets fétiches de la saga, on les voit en coupe, on voit un peu comment ça marche.
C'est un pavé,
sur. Non, c'est pas un pavé, ça fait 70 pages, je crois, un truc comme ça, voilà.
Ma BD un peu.
Ouais, bon alors je l'ai acheté la semaine dernière, je l'ai regardé très rapidement
à
pour
quel
l'instant.
Prix, d'ailleurs
mais, ça coûte pas cher, ça coûte 13 euros.
D'accord.
Ouais, voilà. Donc c'est vraiment génial ce bouquin. Si vous avez des petits-enfants là, dans la famille qui ont aimé le film, ouais, c'est un beau cadeau à faire pour un gamin et même pour un grand en fait. Hein.
Ça s'appelle Star Wars, le réveil de la force, l'encyclopédie
illustrée.
Voilà.
Donc tu peux vraiment, je vais donner un exemple. Sur le, par exemple, le bouquin de la prélogie, où tu voyais que le comlink qu'ils ont, celui où ils parlent de midi-chloriens, c'est des midi-chloriens, voilà. C'est un rasoir jetable pour femmes en fait.
C'est vrai.
Ouais, qu'ils ont peint en doré. Et en fait, quand tu vois l'objet en photo dans le bouquin, tu te rends compte, ah ouais, merde, l'accessoiriste, il a vraiment pris le rasoir dont il y avait la pub au même moment à la télé, quoi. Voilà.
Merde.
Ah la vache, ça casse le mythe
Vénus,
un petit peu. Là.
Vénus.
Tu te rends compte aussi en regardant ces bouquins que par exemple dans le premier épisode, épisode 1 donc, Mace Windu a le même sabre laser que Dark Maul. En fait, la tête d'où la lame sort sur le sabre laser de Dark Maul, et c'est le cul du sabre laser de Mace Windu.
D'accord.
C'est les mêmes pièces. Enfin, des petits détails comme
ça
que tu peux
spotter. C'était le système D aussi pour les épisodes 1, 2, 3.
C'était un peu le système D. Du genre, à leur ceinture, ils avaient des capsules accrochées, du genre des vivres où on ne sait pas trop ce que c'est, hein, ils ne nous l'expliquent pas. Mais c'est des bouchons de stylo.
Voilà. Non. C'est assez
c'est
fun.
C'est pas possible.
Et donc, on arrive à spotter ce genre de petits détails en lisant ces bouquins. Donc là, on vous a présenté celui du Réveil de la Force. Si jamais vous avez l'occasion de mettre la main sur ceux de la prélogie et de l'ancienne trilogie, allez-y. Ils en ont fait un Lego aussi, comme ça.
Moi, quand j'étais petit, j'avais mon meilleur pote de l'époque, qui est un des deux membres du groupe The Shoes, musique électro, donc Guillaume. Lui, il avait un manche-disque. Et je me souviens, il avait l'épisode 6 raconté par Roger Carrel en tourne-disque. Bah putain, j'en crevais d'envie de ce truc. C'était génial.
C'était le pied.
Bah c'était super. Franchement, c'était vraiment génial. Mais bon, on fait plus ces trucs là.
Non.
Dommage.
Et toi, ton hors-jeu, c'est quoi ?
Eh bah, mon hors-jeu, c'est une pièce de théâtre. Enfin, je vais faire un peu comme Julien, tu vois.
Sur Netflix ?
Non. Pour une fois, on ne fait pas de Netflix, c'est une pièce de théâtre.
On s'est déplacé dans la vraie vie, là, plusieurs fois, là.
Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Bah, faut croire qu'on a un petit peu de temps maintenant.
On va se calmer un peu.
C'est pour ça que j'ai pas eu le droit de parler de Jessica Jones.
Si, tu en as parlé, t'as dit que c'était bien. C'est suffisant.
Merci, c'est gentil.
Eh bien, c'est la pièce Arsène Lupin qui a recommencé à Paris au théâtre Michel, rue des Mathurins. Qu'est-ce qu'il y a, Julien ? Ça te fait marrer.
Théâtre Michel.
Bah, ça s'appelle le théâtre Michel, j'y peux rien, moi.
Alors, on va voir chez le Mi ! Allez, c'est parti !
Et donc, ce Arsène Lupin, qui est donc une adaptation de la pièce écrite en 1908, notamment par Maurice Leblanc, qui est l'auteur original d'Arsène Lupin, c'est une pièce qui est plutôt agréable à regarder, même si l'intrigue est très datée, hein, faut dire ce qui est. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt, mais l'enchaînement des situations est plutôt rigolo. Les acteurs, toute une bande qui est...
Des comédiens,
qui sont emmenés par Grégory Boja, donc qui joue à Arsène Lupin, vraiment truculent, sont très très bien.
J'aime bien parce que ça permet d'avoir un vocable différent de quand on parle de jeux vidéo, tu vois.
C'est
truculent,
vrai.
On le place rarement dans nos tests
moi,
de jeux vidéo.
Si je le mets en tant truculent, ouais, bien sûr, ouais, j'adore
fort
le
bien,
mot truculent.
Fort bien.
Et donc il y a une mise en scène qui est plutôt chouette, mise en scène signée Delphine Piard, avec des petits intermèdes un peu plus modernes, un peu dansants aussi, où la lumière va changer et on va se retrouver avec les personnages qui vont faire un petit peu des petits pas un petit peu à la Monty Python, ils vont se déplacer un peu en silly walk par moment. C'est très très rigolo, c'est une fois de plus aussi très bien joué par la plupart des personnes. C'est très visuel.
Ça veut dire que certains d'entre eux par contre ne jouent pas trop bien.
Il y en a peut-être qui surjouent un peu.
Ah.
Peut-être.
D'accord.
Mais je suis pas certain. Non vraiment on a passé franchement un bon moment. C'est un moment très familial, surtout je pense que ça peut plaire autant aux enfants que ça peut plaire aux adultes et fans de l'Arsène Lupin, parce que dans mon entourage très proche.
Pourquoi d'un seul coup t'as augmenté le volume comme ça?
Parce que Julien allait dire quelque chose et que me suis dit il faut que j'augmente le volume, et donc
je vais le dire après.
C'est pas très cher en plus. Si vous commandez directement sur le théâtre, je crois que les places les mieux placés sont à environ 15€. Avertissement néanmoins.
Ah bah voilà, c'est ça que j'allais dire.
Le théâtre Michel, il y a un petit souci, c'est que si vous allez au premier rang, vous êtes collé à la scène. Et quand je dis collé, c'est-à-dire que vous n'avez même pas la place pour les genoux si vous faites 1m80. Donc je vous déconseille.
T'étais au premier rang ?
Oui. Et on a changé pour aller en loge, mais au départ, tu vois, sur la photo, c'est pas visible quand tu fais le placement. Donc du coup, on a changé après. Donc je vous déconseille le premier rang, mais c'est une salle quand même qui est très sympathique dans l'ensemble.
Alors, Chelmy, qu'est-ce qui se passe au premier rang là ?
Bah, je sais pas ce qui leur est arrivé. Enfin bon, tout ça pour dire que ce Arsène Lupin est plutôt bien vu et que je le conseille énormément.
Il est truculent.
Il est truculent et c'est le plus grand des voleurs aussi.
C'est le plus grand des voleurs.
Et ils reprennent un peu aussi les musiques de Jacques Dutronc, évidemment.
Oui,
ils font
mais
exprès.
C'est
de...
un gentleman.
J'en demandais pas autant.
C'est hors-jeu de Vienne. Franchise des caps.
Non, là,
c'est bon. On va y arriver.
Ouais, bon, bref. C'était mon petit hors-jeu de la semaine. Et merci à vous pour vos petits hors-jeux aussi. Julo, Julien et Johnny Wan.
Pas de merde, de rien.
Et maintenant, j'ai envie de dire que c'est la fin du podcast.
La tristesse.
Mais heureusement, on se retrouve la semaine prochaine.
Ah !
Et oui, on se retrouve évidemment
avec
la semaine prochaine.
Avec un autre nouveau rédacteur. Ça n'arrête pas sur Gameblog.
Ah ouais ? C'est vrai ? On l'annonce déjà direct, là, comme ça ?
Bon.
Ok, si tu veux.
Non, pas forcément. Le roi.
On l'a déjà vu.
On a juste dit, il y aura un nouveau rédacteur.
On l'a déjà vu en podcast.
Le roi ? C'est vrai.
Ouais, le roi.
Ouais.
C'est lui ?
Le roi. Celui
celui
dont, quand on dit son nom, en général, les gens rient. Les gens de la communauté Gameblog rient immédiatement.
Disons que les gens, quand ils voient leur... sa photo de test de vidéo. Oui, vous pouvez le retrouver dans le métro.
J'ai changé.
Hein.
J'ai demandé de m'en renvoyer une autre, je l'ai changé.
Désolé. Hein.
Désolé, Olivier. L'ancienne version de cette photo est un collector. Elle a disparu de la circulation.
Bon, bref, on vous retrouvera la semaine prochaine.
Tournesol.
On vous retrouvera la semaine prochaine avec Olivier du Bocal et d'autres personnes pour parler d'un petit sujet qui leur tient particulièrement à cœur.
À cœur. La croûte nardise.
La croûte nardise. Ça ira parler des croûtes nardises.
Pour ceux qui ne sont pas au grand, toujours aller sur les internet,
taper sur Google
juste avant d'avoir mangé, ce serait top. Ouais. Après, c'est plus compliqué.
Je sais pas si tu l'évoques. Tu dis ce nom, me file la gerbe.
Ah, moi aussi, j'ai une petite nausée qui commence
mais
à
venir. En plus, on s'est rapproché de Croûte-Narland.
Ouais.
Puisque je vous rappelle que ça se passe essentiellement vers Gare du Nord.
Oh,
Croûte-Narland.
La bouche des enfers et tout.
Non,
bah tu vas voir, chercher ça après. Bon, c'est sur cette note poétique que nous allons terminer ce podcast. Merci encore une fois, Johnny One, Julien, Julo et Poufi à la Sono pour ce podcast. Merci à vous de nous avoir suivis, évidemment, comme chaque semaine. Merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. D'ici
et
là...
n'hésitez pas, juste une chose, si vous êtes premium, ça veut dire que vous avez le podcast avant l'anniversaire de Gameblog. Vous pouvez toujours participer avec le hashtag Gameblog 9 ans. Et puis si vous n'avez pas Twitter et tout, c'est tout à fait possible aussi. Dans le forum, laissez, je sais pas, une petite photo, une vidéo.
Envoyez des vidéos, soyez pas timide.
Faites un truc, voilà. Et amusez-vous.
Dans le forum
chose.
De la news des 9 ans, précisons.
Des 9 ans, bien sûr, qu'on va remettre, machin. Je crois que ça s'appelle hashtag Gameblog 9 ans, un truc comme ça. Vous tapez anniversaire, vous allez trouver d'une manière ou d'une autre.
Exactement.
Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des nouveautés de Gameblog. Merci, au revoir.
Bah voilà, t'as fini, c'est bon, c'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout,
jouez bien.
Jouez bien.
Ciao.